Wow, Charlie, il est quelle heure là?
Oh putain, mais il est 20h.
Et on est quel jour?
Mercredi.
Et qu'est-ce qu'il y a le mercredi à 20h?
Sur RCN, la boîte de chocolat.
Allez.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et ce soir, notre chocolat, ce sera 300 et on en parle maintenant.
Dans 15 secondes, tout ce qui existe sera complètement atomisé.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent.
Nom d'une pute, t'es qui, toi?
Je suis une mythe en pilote vert.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça.
Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Oh, my generation.
On est mal barré.
Sois enculé, tu es immonde.
Cause it's bad boy for life, for life.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Ce soir dans la boîte de chocolat, on va parler de 300. Alors 300, c'est un film péplum d'action d'1h55, sorti en 2007, réalisé par Zack Snyder, avec Gerard Butler, Lena Headey, donc c'est Cersei Lannister, Rodrigo Santoro, Michael Fassbender, Vincent Regan et Dominic West. Et quand on déballe le chocolat, eh ben ça nous donne ça.
Ça doit être très visuel en fait, comme bande-annonce. Hein.
Il y a des paroles.
Nous, Spartiates, descendons du grand Héraclès. On nous apprend à ne jamais reculer, ne jamais se rendre.
Et avoir des
couches. Mourir sur le champ de bataille est la plus grande gloire que l'on puisse atteindre. Spartiates, les meilleurs guerriers que le monde ait jamais connus.
En français, c'est pas ouf. Hein.
Tu menaces mon peuple d'esclavage et de mort.
C'est de la folie.
Et de mort.
De la folie.
C'est cela, Sparta.
Waouh, c'est pas
nous. Nous résistons. Nous combattons.
Et voilà, grosso modo, 300, c'était ça. C'est vrai que la bande-annonce, les voix qui sont claquées,
ouais,
c'est, on a remarqué quand même que c'était assez courant.
Hein. Oui,
les différences de doubleurs entre les bandes-annonces et les films.
Ce soir, m'accompagne Charlie. Bonsoir, Charlie.
Eh bien, bonsoir, Thomas.
Eh bien, bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Thomas, et bonsoir, tout le monde.
Et bonsoir, Badis.
Bonjour.
Et bonsoir Thomas, à moi-même, bien évidemment. Exactement. 300, c'est un film qui a reçu la note presse de 2,9.
Ah, c'est tout?
Ouais, c'est pas dingue. Et par contre, les notes spectateurs, c'est 3,9. Ouais, mais alors après.
3,9. Ah, ouais, c'est une belle note quand même. Belle note.
Après, alors je sais que j'ai un exemple et un contre-exemple. Forrest Gump, la presse l'avait défoncé, les spectateurs l'ont encensé. Ils ont eu raison. Et je me souviens que lorsqu'on a fait 50 nuances degrés plus sombre, plus brosson, bah pareil, la presse avait défoncé le film et les spectateurs l'avaient un petit peu élevé quand même.
Bah, je pense que c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, ceux qui aiment le film ont tendance à aller mettre des.
En général, sur les films grand public, les spectateurs ont tendance à être plus clément. Que les critiques qui eux privilégient, tu vois, des films un peu plus arty, genre indépendant.
Ouais, donc là en fait quand tu le vois c'est en fait le reflet de la société qui est non-commensurisme.
Ah bah clairement, je pense que là il y a une bonne critique de beaucoup de choses.
Alors qui me fait le résumé de ce film?
Eh bien c'est Léonidas qui en fait se met en tête d'arrêter l'invasion perse de la Grèce, et donc pour ce faire il va partir avec 300 de ses potes, ouais, pour
de ses catcheurs, on peut le dire,
exactement, de ses catcheurs catcheurs de tragédie grecque qui vont utiliser à leur avantage le terrain local pour arrêter l'immense armée de Xerxès qui compte, je sais pas, des millions de personnes au moins. Donc tu vois, 300 contre beaucoup.
Les Spartiates qui font beaucoup penser aux Immaculés de Game of Thrones, si vous avez la ref.
Oui, de toute façon les inspirations
sont
assez
visibles. Sauf que si tu vois ce que je veux dire, ils ont une bonne grosse paire de couilles.
Même les Immortels font très Immaculés aussi.
Alors le film s'ouvre sur une voix off expliquant comment on validait à l'époque un enfant, à savoir en haut d'une colline un soir d'orage, et valait mieux que tu n'aies pas le moindre défaut.
Parce un
que
mec, sinon... si t'avais 6 orteils à l'époque, c'est mort de chez mort. Ouais. Ah.
Je pense que du coup Éric Zemmour, il aurait été balancé. Ensuite on va suivre l'évolution d'un jeune enfant qui va se faire enlever à sa mère pour être enrôlé dans une armée spartiate. On suit donc son parcours, toujours avec cette voix off. Il se fait fouetter, il affronte des loups en montagne, les soirs d'hiver sous la neige. Mmh. Bon, alors, dans l'idée, on est quand même...
C'est hardcore. C'est comme hardcore.
On est sur un élevage de super-héros,
ça
quand
s'appelle
même.
S'appelle l'agogé.
Ouais, de super-héros ou alors de super-martyrisés aussi. Enfin, tu sens que psychologiquement, les mecs ont tendance à devenir instables un peu après.
Ouais, si à 7 ans, t'es balancé comme ça et on t'apprend, bah, c'est quoi, c'est ta vie, démerde-toi, c'est chaud quand même après derrière.
Alors, moi, j'ai pas compris, du coup. Alors, j'ai compris l'idée, hein, mais du coup, je sais pas s'il y a que Léonidas qui a vécu ça, parce qu'ils en parlent qu'on
voyait que
Léonidas.
Les enfants, c'est tous les enfants spartiates.
Tous les spartiates oui. sont censés faire ça, en fait.
Ouais, t'as vu comment ils sont battus
que 300.
Non, 300, c'est que la garde qui part avec eux. Il y a toute une armée en plus.
Oh, ok, d'accord. D'où la guerre après.
Le mec découvre le film.
Mais j'ai pas compris, il faisait chaud qu'ils soient tous en slip ou pas là. Parce qu'en fait, je comprends pas.
Bon, après, ça c'est quand même très romancé d'ailleurs. Parce que tu sais que t'es quand même en Grèce, il y a quand même neige. Les mecs sont balancés dehors. Bon, ils ont le droit à rien en fait. Pas de sandales, pas de manteau. Et ouais, c'est vraiment.
C'est vrai que c'est hardcore comme éducation.
C'est, en fait, t'es à Sparte, tu vas vivre ta vie torse nu, mon gars.
Ah, je pense, voilà, il y en a qui trouvent le bac un peu chaud. Le bac à Sparte, c'est hardcore quoi.
Ouais.
Je veux dire, tu te bats à main nue, en combat singulier face à un loup. Il y a quand même
face à un loup en CGI avec des yeux jaunes et en fait moitié dents de sabre, etc. En plus, c'est limite un loup mythologique en plus.
Ah oui, bah, très mal fait, en même temps, c'est un peu mythologique aussi.
Ça fait partie des trucs qui ont mal vieilli.
Oui, alors pour le coup, autant au niveau des effets spéciaux, parce que le film a 15 ans, environ 15 ans, et je trouve que visuellement. Il a quand même une putain de gueule, mais il y a des trucs qui sont moches. Le loup du début, oui. En l'occurrence, il est dégueulasse.
Mais en fait, c'est des moments où ils essayent de faire des trucs entiers en synthèse. Parce que tu vois, le sang, les flammes, les trucs, la neige qui passe, ça c'est de la synthèse. Mais le loup, ça passe. Mais le loup entier, par contre, c'est moche.
Bah non, ça dépend. Parce que le gros rhinocéros que tu vois, les gros éléphants, tout en synthèse, par la suite du film, ça passe aussi. Hein.
Oui, c'est vrai, il a raison. Ouais, après, il y a beaucoup plus de lumière.
Non,
après,
je pense qu'en fait, c'est juste le chara-design du loup qui est dégueulasse.
Le loup est mal fait. En revanche, le truc est bien fait. La scène. Le truc est bien fait dans la scène.
Il avait jamais vu de loup.
Ah, t'as jamais vu de loup.
Ah, non, je suis pas chaud. Allez, super.
C'est ça, c'était peut-être une métaphore de la vie en fait. Vrai, peut-être qu'en fait, il allait aux filles, on sait pas en fait. Hein.
Et parler de la bonne grosse guiche veineuse, quoi, tu vois. Ah, ça, c'est du loup, ma gueule. Ça te fait crier la pleine lune, tu vois.
Bah, sur la scène du loup, le seul truc qui est bien fait, je trouve, au contraire, c'est quand le loup charge et que tu le vois du coup avec son ombre. Ça, je trouvais que c'était plus intéressant du coup en suggérer. Qu'en montrer du coup
suggérer.
Oui.
Suggérer.
Avec 2G.
Suggérer.
Donc du coup, le gamin, il bute le loup. Et là, il revient auprès des siens. Et là, c'est jackpot, mon pote. Parce que le gars, toute la foule lui est reconnaissant.
Ah, j'ai l'impression que ça pèse un peu chez les Spartiates quand tu butes un loup comme ça avec.
Quand t'as 7 ans et que t'as réussi à buter un loup.
Avec simplement un bâton.
Mais du coup là aussi j'ai pas compris. C'est comme ça qu'il devient roi ou alors c'est déjà de par son sang.
Bah ouais. je pense que
de par
c'est parce que c'est un descendant direct à mon avis de la lignée royale.
Okay. Après c'est moitié parce qu'à Sparte il pouvait avoir plusieurs rois en même temps. Donc c'est un peu technique.
T'avais le roi d'Agobert. J'en connais aucun autre. T'avais le roi-ci, excellent jeu de mots.
Après avoir fait du coup vite fait un synopsis sur comment t'expliquer comment devient un spartiate, et du coup il faut que le film avance et du coup des émissaires arrivent au ralenti. Des ralentis très 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 stylés.
Attends, il y a pas un petit discours déjà du mec qui n'a qu'un œil.
Oui, enfin, il y a la voix off de toute façon que t'as sur tout le film. Tu sais qu'il parle à des gens et qu'il raconte du coup une certaine. Qui raconte le mythe en fait et l'histoire qu'il va y avoir. Et
parce que là, tout le monde entend une voix off qui est en train de nous conter le film.
Oui, ouais, ça, et puis là, elle nous dit que voilà, là, il s'apprête à taper du perse et que s'il tape du perse, c'est un peu là.
Voire même à percer du perse.
Ah bah voilà. Et que s'il se retrouve dans cette situation, c'est peut-être un peu la faute de Léonidas aussi.
Pourquoi ?
Bah parce que justement, flashback, du coup là t'as les émissaires qui arrivent à cheval, tu vois, avec le mec et son collier de boule de geisha hardcore là, tu vois.
Alors attends, non, parce que justement moi j'ai autre chose. Là on découvre pour la première fois Gérard Butler, Léonidas, qui est en train de... Léonidas, Gérard Butler à ce moment-là, c'est physiquement c'est quelque chose.
C'est incroyable.
Ah, je suis carrément d'accord.
Tu sais que c'est à cause de cette barbe qu'il a dans le film que j'ai toujours cru que Gérard Butler avait un menton, mais en fait pas du tout.
Ah,
barbe m'a complètement induit en erreur.
Moi la première fois que j'ai découvert Gérard Butler, c'était dans 300 et il a un corps de fou. Et dans tous les autres films, tu as envie de dire, Gérard. T'as troqué les haltères contre le McDo en fait, parce que. Ah ouais, non mais.
Après, peut-être que l'entraînement lui a causé du tort, il s'est dit, mec, plus jamais de ma vie je fais ça.
Alors, je vais faire un petit point entraînement. Visiblement.
Maquillage.
Il semblerait que toute l'équipe, tous les acteurs se soient entraînés durant seulement 8 semaines pour avoir le corps là. Et ça me paraît quand même ultra light.
8 semaines pour être aussi dessiné.
Parce que là, on parle des produits que tu utilises.
Ouais. Bah visiblement, ça parlait pas de stéroïdes, de choses comme
ça. Non.
J'ai du mal à y croire.
Parce que autour de la table, il y a quelques personnes qui vont à la salle et nous, en 8 semaines, on n'a pas ça du tout. Non, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé à regarder le film, j'étais torse nu. J'ai vu Léonidas et j'ai remis un t-shirt direct.
Physiquement, c'est impossible d'avoir ça en 8 semaines dans tous les cas. Après, ça doit être amélioré.
Ils étaient costauds de base.
Je pense qu'ils étaient costauds de base et puis même avec les effets spéciaux, ça doit être hyper amélioré. Parce que pour avoir un physique comme ça, il faut être dopé ou pour avoir autant d'abdos et être aussi large. C'est quasiment impossible.
Il y a du maquillage déjà. Tu sais, tu mets un petit peu de maquillage en dessous, plus sombre.
T'assombri au niveau des abdos.
Et puis si t'éclaires par le dessus aussi, tu dessines un peu le. Donc il y a l'éclairage aussi.
Par contre, Léonidas. Lui, par contre, il a vraiment un corps de ouf.
Non, parce que qu'on soit d'accord, c'est très agréable à regarder. Alors là, je le dis honnêtement, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand j'ai vu Léonidas, je me suis senti Anastasia style devant Christian Grey. J'ai remis un t-shirt et j'ai éteint la lumière.
J'avais une comparaison avec l'autre pintade aussi là tout à l'heure.
Et là, on se rend compte que Léonidas, il a une go, et cette go, c'est Cersei Lannister.
Oui, bah toujours dans les bons coups. Quand il y a un trône quelque part, elle est jamais loin.
et c'est ce moment-là où j'ai versé l'alarme.
C'est vrai.
Parce que je m'attendais pas du tout à voir Cersei. Et c'est mon actrice préférée dans Game of Thrones. Ouais, incroyable.
Franchement, je suis presque sûr que les créateurs de Game of Thrones l'ont casté suite à ce film-là, parce que le rôle est quand même vachement similaire.
Déjà, elle joue si bien. C'est incroyable à quel point elle joue bien. Personnellement, je trouve, elle joue super bien. Elle joue. En fait, elle joue la femme forte, tu vois, assez aisément et assez facilement, je trouve.
Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a l'émissaire. Donc, on se rend compte que c'est l'émissaire perse qui arrive et qu'il arrive un peu en posant ses couilles, tu vois, en mode. Il y a mon patron qui est en train de défoncer tout derrière. Donc,
en faisant de la fausse humilité.
Il sort son collier de tête de roi pour bien montrer son truc. Et il commence à aller voir Léonidas en lui disant « Mec, il faudrait que tu nous donnes un peu de terre, un peu d'eau. Tu vois, il faudrait qu'en fait tu t'agenouilles, tu te soumettes.
Voilà. » En fait, je veux que tu sois matchouin en fait.
Voilà, c'est ça.
En fait.
Donc Cersei, il n'entend pas trop de cette oreille. Elle lui rentre un peu dedans quand même.
Alors, ce qui est sympa quand même, c'est que avant que ça démarre, avant que le mec perse commence à parler, t'as quand même Léonidas qui lui dit « Juste avant de t'écouter, choisis bien tes mots. »
Ouais, parce que tu fermes ta gueule devant ma femme.
C'est ça. Parce qu'il s'avère que nous, les mots ici, c'est important. Scoop, les meufs peuvent aussi parler, donc pour te dire dans quel délire on est. Donc toi, s'il te plaît, choisis tes mots, parce qu'après, une fois que c'est dit, quand c'est dit, c'est dit.
C'est trop tard.
Ouais, c'est clair. Il lui dit bien le fond, la forme.
C'est
clair.
Ça. Ouais. Et là, en effet, comme disait Charlie, le mec lui dit « Écoute, tu nous donnes des terres, tu t'agenouilles, et puis voilà. Et puis ça va être comme ça, parce que l'exercice, il est à toi. » Et du coup, c'est un petit peu tendax.
La première image qu'on a, c'est de l'émissaire qui est un rien misogyne, comme tu dis. C'est qu'en gros, il supporte pas qu'une femme lui parle, en fait. C'est ce qu'il va dire.
C'est pas ça, être misogyne. Ça, c'est plutôt justement avoir les pieds sur terre. Non, parce que depuis le droit de vote des meufs, j'ai l'impression que ça part en couille.
D'être ouvert.
C'était une des critiques qui avait été faite au film et que tu vois après, c'est la façon dont ils représentent les Perses qui sont
hyper moches.
Oui, tu vois, très
hyper dégueulasse.
Et la façon dont ils représentent les Grecs.
C'est une critique qui a été faite sur le film.
Sur le film, à ce moment-là.
Dans ce cas-là, je trouve.
Oui, non, sur le film et du coup sur le comics, c'était l'ensemble, quoi.
C'est ça, voilà.
Moi, je voulais dire un truc éclaté au sol, mais du coup, c'est à ce moment-là, tu vois que Léonidas, il est vraiment genre incroyable, mais par contre, il a une mèche de cheveux dégueulasse.
C'est un point capillaire important.
Moi, je trouve sa coupe de cheveux incroyable.
La petite mèche derrière.
La petite queue de c'est parce que c'est un padawan en fait, il est encore en formation.
Ça, c'est très grec. Fan de la petite queue.
C'est pour respecter le côté grec, ça.
Franchement, il a de l'allure quand même.
Ah, la coupe
que soit
des Spartiates,
la coupe de cheveux, la barbe et même
la petite toupette, non.
Ah, la petite tresse, allez.
Autre chose, mais pas ça.
Ah, la petite queue, je peux la couper, mais franchement, par contre, le devant là.
Non, franchement, la petite tresse, je l'autorise.
Après, franchement, tu me dis, Thomas, t'as le corps de Léonidas, t'es obligé de te faire la petite queue derrière. En vrai, je le fais.
Oui, bien sûr.
Je m'en fais même deux, s'il faut. Donc, bref, on est en train de se perdre.
Oui, on est en train de se perdre. Donc, l'émissaire recadre gentiment, salement, la reine. Je sais plus c'est quoi son nom d'ailleurs. Elle est pas nommée.
La reine Cersei. Je pense qu'elle l'appelle la reine.
Cersei.
Oui, parce qu'attends, pour replacer dans le contexte, quand il est en train de s'adresser à Léonidas, t'as Cersei qui commence à un petit peu exprimer son point de vue.
Ouais, c'est clair.
Et là, t'as le mec de Perse qui commence à dire.
Genre, elle vient de parler là.
Excuse-moi, il y a ton bétail qui parle.
<C'est clair.
rire> Comment ça se passe?
Et elle a pas demandé ton autorisation en plus.
Vous êtes tellement primitif.
Et du coup, tu sens que l'échange est tendu.
Ça critique les gays. Et pour des gens qui critiquent les gays, ils font très très gays.
Ah bah ils sont carrément gays, oui, mais c'est les seuls à pas être au
courant.
Comment
ça critique les gays?
Ouais, à un moment donné, ils disent.
Si même les Athéniens qui aiment les garçons, ton.
Ils disent ça. C'est les Spartiates qui disent ça, clairement. Oui. Mais c'est Léonidas qui dit ça. En fait, c'est parce que ça, c'est pour respecter le côté guerre entre Sparte et Athènes, où Athènes est vue comme la ville des philosophes, des artistes, donc un peu des fragiles, en fait, et Spartiate, la ville où t'es un guerrier, en fait.
C'est à l'époque là où quand t'avais une petite top, t'étais réputé pour être un mec intelligent.
Ah, sûrement.
Je suis bien débile, hein.
Dans la statuaire grecque.
Excuse-nous, hein. Mets-toi un jingle, connard. Quel gros.
Excuse-moi, l'intello en face de moi, là.
Monsieur.
Donc,
monsieur
bref,
va faire une thèse.
Ça s'envenime, et du coup, Léonidas, il doit répondre à la proposition du Renoir.
Bah, tu sens que déjà, il a ce côté regard dans le vide. Je contemple les gens autour de moi, je tape une pause, ralenti. Donc,
oui, parce
clairement,
que
là, il va faire une connerie.
Ouais, là, et c'est... Parce qu'on va le voir tout au long du film, mais alors, les Spartiates. En tout cas, la team de Léonidas,
c'est
des punchliners.
C'est des
poseurs. Ah oui, ça, c'est des poseurs, c'est clair. Bah, quand t'es en slip rouge, vaut mieux que tu sois un poseur. Sinon, t'es ridicule.
Ils sont beaux, leurs slips. Hein.
Mais oh.
Oh. Disons qu'ils sont beaux, ils le portent bien aussi.
Ah,
ça,
ouais,
ça va pas
sûr.
Tout le monde, ce genre de slip. Hein, je pense que...
C'est des poseurs. Mais
en vrai,
bien huilé,
le film là, tu peux faire pause à n'importe quel moment, c'est des tableaux. Bref, ça s'envenime et ça nous donne ça.
Mais que fais-tu? Tu es fou? De la terre et de l'eau. Tu en trouveras autant que tu veux en bas. Aucun homme, perse ou grec, aucun homme ne menace un messager.
Parce qu'il est devant un puits en fait.
Les couronnes et les crânes de rois vaincus dans ma cité
ça
de
reste
Sparte.
Une menace. Bien vu.
Tu insultes ma reine. Tu menaces mon peuple de mort et d'esclavage. J'ai choisi mes mots soigneusement en perse. Tu aurais peut-être dû faire de même.
Boom.
C'est un blasphème. C'est de la folie.
J'ai un slip rouge.
Vous êtes torse nu, monsieur. Mettez un t-shirt.
Vous êtes en slop.
Mais qui met des slips en 500?
Ah, le petit regard de l'amour. Il est beau, celui-là.
Oh, Cersei.
Il regarde sa go.
Surtout en battu.
Surtout, il est en train de le dire. Bute-le, mec.
Ah, là, écoutez.
Nous sommes des Spartiates.
Et ben là, il lui met un grand coup de pied dans le torse. Et donc, il le projette dans un puits qui a l'air profond.
Ah, je sais pas comment ils l'ont creusé, mais putain, ils l'ont creusé. Hein.
Bah ouais, je pense qu'il descend directement aux enfers.
Je crois que c'est là où il y a Bruce Wayne dans The Dark Knight Rises.
Ah,
parce que...
j'ai cru.
Cinéma ou pas cinéma?
Non, mais
cinéma.
J'ai cru que t'allais faire une référence cabreuse à un gamin qu'on a trouvé dans un puits.
Et donc, ouais. Coup
de latte. Le seul truc que je trouve débile, c'est que du coup, on est d'accord, c'est le puits de la ville.
Oui,
elle va quand même bien être pourrie avec le cadavre de 5 personnes à l'intérieur. J'espère qu'ils vont aller la chercher après.
C'est vrai que le mec a chauffé. Bah tiens, prends l'eau du puits.
Je vais aller à la rivière.
Elle a un goût.
C'est parce qu'il y a un noir. Non, c'est juste.
C'est clair.
C'est juste qu'il y a des morts.
La
bon, là, on comprend rapidement que le peuple spartiate est un peu susceptible, ou du moins soupolé, et vu qu'ils ont littéralement buté le messager ainsi que tous les mecs perses qui l'accompagnaient.
Ouais, bah voilà, ils ont buté la délégation, quoi. Bon, après, en général, tu butes pas le chef pour garder les autres.
C'est clair. Et puis en règle générale, quand quelqu'un vient pour parler, ouais, tu vas pas buter les gars pour le pourparler. Tu vas juste dire bon, on l'accepte pas. Là, clairement, les gars viennent pas. Ils doivent se dire ah, ils ont peut-être été chafouins.
C'est vrai que c'est le méchant, Léonidas, dans l'histoire. Bah, ça dépend de quel point de vue. Par contre, ce qui est marrant, c'est que si je peux faire une petite comparaison, en France, quand on parle de peuple un petit peu peu docile, c'est Astérix et Obélix. C'est-à-dire que c'est le peuple gaulois que César n'arrive pas à dresser. Et là, tu te dis, dans 300, le peuple qu'ils n'arrivent pas à dresser, c'est quand même les Spartiates, et c'est quand même une autre gueule qu'un espèce de gros lard avec un menhir et un petit moustachu qui boit une potion.
Oh, je pense que Obélix peut s'en sortir face à 300 Spartiates.
Nous sommes des Gaulois.
Puis il met un coup de vent, il y en a déjà 3 ou 4.
Juste un menhir, je pense que quand même il en couche facilement quand même une quinzaine.
Ouais,
quand même,
non, donc, faut se méfier d'Obélix.
Bref, le soir venu, donc, comme je disais, Léonidas escalade une montagne afin d'aller parler à des efforts. Alors,
des sales races.
À des prêtres, des dieux anciens. Ouais, ce qu'on appelle efforts, c'est des espèces de vieux prêtres dégueulasses, pustuleux.
C'est écrit dans le truc, c'est dit ordure consanguine plus créature qu'humain. Ça va, c'est plutôt bien créé du plutôt
cumin, curcumin.
Oui. Curcumin.
Ta gueule.
Qui m'a suivi dans curcumin, c'est toi, Maddy?
Absolument personne.
Ok.
Moi, j'ai mets-toi un jingle.
Mais
putain.
Non, mais j'étais resté sur juste le cumin en fait.
Ok, ça. Oui, bah oui.
Bah oui, j'ai pas besoin d'aller.
Alors, qui me prend la scène là?
À Sparte, visiblement, pour partir en guerre, tu es obligé de demander l'avis des fameux prêtres consanguins lépreux.
Je peux aller faire la bagarre, s'il vous plaît.
Qui visiblement ont abusé de charcuterie parce qu'ils ont des sales boutons sur la gueule.
C'est clair que le cochonou, il sait ce que c'est.
Pour ce faire, donc, tu dois escalader une montagne sans escalier. Je pense que depuis le temps, ils auraient pu en graver un quand même. Et leur exposer ton plan dans un espèce de dessiner ses gagnés dans du sable, où tu leur dis plus ou moins ce que tu vas faire et comment tu vas arrêter les Perses. Sauf que clairement, on sent que les fameux efforts sont plus intéressés par l'argent que
ça n'a aucun sens qu'ils soient intéressés par l'or. Parce que tu vois que c'est des créatures mythologiques, limite demi-dieux.
Ah, ils disent qu'ils sont humains quand même.
Ah oui, disent qu'ils sont humains.
Qu'ils sont humains.
En fait,
coup,
c'est les lépreux qu'ils ont mis de côté. Et alors, le truc, c'est que les efforts, ça existe vraiment en fait en point historique. Mais à la base, c'est censé juste être des magistrats en fait, qui avaient vraiment le pouvoir à l'époque de choisir qui était le roi. Qui
vous
était
en faites
le roi
pas,
de
je vais revenir avec des vannes de cul, il y a aucun problème.
Mais non, mais c'est parce
on
que...
a invité Stéphane Merde. Non, non, après.
Historiquement, ils essayent quelque chose qui est intéressant. Mais ils l'ont mal traduit en fait après là. Se faire chier à faire le côté c'est des hommes sales, etc.
Mais non, c'est des hommes sales, c'est des gens.
C'est une œuvre de fiction, donc tu les présentes comme tu veux. Après, on va pas s'attarder sur les points historiques à tous les.
On peut dire ce qu'on veut, mais Gérard Butler, il pète la classe.
Ah
ouais, non, franchement.
Incroyable.
C'est vrai. C'est Léonidas.
Léonidas, franchement, c'est quelqu'un. Parce que la coupe, lui. Parfait, la barbe parfaite, le corps, le slip, la cape, oh, parfait.
Même la petite queue de cheval.
Ah, oui. Je suis pas d'accord. Mais à aucun moment il devient un peu trop genre moche ou quoi que ce soit. Non. Il est toujours stylé.
Alors si tu veux le voir moche, c'est la suite de ses films. Mais dans le film là, il est à son prime.
Voilà, il décide de lui expliquer le plan.
Donc Léonidas essaye de lui expliquer le plan.
Et puis les gars, tu comprends qu'ils sont pas chauds, qu'ils sont plus intéressés par l'argent quand même. Ouais. Et puis ils disent ouais, vas-y, on va consulter l'oracle.
Ouais.
Alors l'oracle, c'est quoi
l'oracle? C'est une meuf à poil.
Voilà. C'est incroyable. Ce moment-là est magnifique.
L'oracle, c'est quoi? C'est une nana qui danse les tétés à l'air. Et en fait, pour faire cet effet visuel, ils ont simplement, ça devait être quand même quelque chose. Ils ont claqué une nana dans l'eau et ils ont fait faire la chorégraphie. Et du coup, ils l'ont filmé. Et puis c'est ce qui donne un petit peu ce côté flottement dans les
dans
cheveux.
L'eau
ouais.
Oui.
C'est... Oh. Non, dans le film, t'as pas l'impression. Ça a été filmé dans l'eau.
Tu vois, c'est pour ça.
Et c'est ce qui te donne cet aspect flottant, etc. Très très bien. Mais alors très très bien. Oui et non, parce que quand tu dis l'oracle, t'as l'impression que c'est une élite supérieure. Et quand tu vois qu'en fait l'oracle, c'est une rousse qui était à l'air, qui danse et qui va se faire lécher par les espèces de prêtres dégueulasses,
surtout que t'apprends qu'en fait les Spartiates offrent du coup en forme d'oracle les filles les plus belles justement aux efforts pour qu'elles se fassent lécher en fait.
Ce qui nous explique que Cersei sa beauté elle l'a obtenue après parce que
sinon elle aurait dû partir directement.
Sinon elle se serait fait lécher par des pustules.
Et la justification du coup des efforts pour qu'ils n'acceptent pas, c'est juste qu'il y a une fête importante chez les dieux en fait, qui est la fête de la Cardenia, etc., et qui sont obligés de faire, et du coup ils peuvent pas les combattre.
C'est-à-dire que ça, les espèces de prêtres se disent non mais attends, Léonidas, il y a une kermesse qui arrive.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est exactement ça.
La fête des dieux, c'est normal.
Du coup bah il est niqué, il se barre. Il est un peu chafouin quand même, Léonidas.
Est-ce que vous voulez acheter un ticket de tombola ou pas?
Ça aurait été drôle ça.
Allez Léonidas, on a un code promo là.
C'est clair.
Et deux secondes après tu vois quoi? Et bah tu vois en gros qu'ils ont été achetés par les Perses, qui leur donnent juste plus d'or et qui leur garantit également d'avoir plus de filles en fait renouvelées plus souvent. Donc en gros c'est des pervers qui ont juste besoin d'or en fait.
Du coup Léonidas il repart, il est un petit peu chafouin et il décide de poser le cul à l'air.
Il décide de montrer son boule à la lune.
Quel beau boule.
Oh là 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 là.
Allez Badis, vas-y.
Oh ce cul. Ah non mais truc de ouf.
Franchement je
Il les a bien contractés en tout cas quoi.
Il y a deux lunes dans le plan, il y en a pas, tu regardes, ouais, d'accord.
Ah c'est petit cul en pleine lune. Ah, ouais,
Et là ensuite il se rappelle que il a Cersei à déglinguer dans le plumard. Bah, donc surtout, il va aller la voir.
Surtout il se dit qu'il va pas tarder à partir, que c'est peut-être la dernière fois. Ouais. Donc,
et là t'as Cersei, tiens, elle arrive. Enfin,
ça n'allume cigare Cersei. Tu la touches du doigt, elle part.
Ceci dit, quand t'as le physique de Gérard Butler,
ça fait pas tout non plus.
Au début, il est quand même limite en poseur de Rodin. Franchement, tu vois là, franchement, il contracte, c'est abusé.
Incroyable. Il y a sa meuf derrière qui regarde, normal.
C'est clair. François, tu sais quoi, tu flasques, hein.
Faut que je sois en mi-mol.
Je peux dire qu'avant la scène, il a fait 200 squats histoire de faire bien monter le sang comme ça.
C'est ça. Et là, en fait, il discute avec Cersei parce que Cersei, elle le sent préoccupé, tu vois. Puis tu sais, il est là à la questionner, genre putain, je vais en guerre, je vais pas en guerre, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Cersei qui lui dit, écoute, pose-toi la bonne question, que ferait un homme libre? Déjà, un homme libre, il baiserait Cersei parce que c'est ce qu'il va faire direct. Donc,
Ah, les fraîches de ouf, hein.
Ah ouais. Ah, c'est quand même une autre classe que la pintade d'Anastasia Steele.
Mais tellement.
C'est pas la même écriture de personnage.
Je sais qu'autour de la table.
Un peu plus fort, quand même, on va dire. Quoi.
Même moi, j'ai trouvé qu'arrivé un moment, Christian Grey, il était bien bâti, mais Léonidas, il le bousille en 2-2.
En 2-2.
Ah ouais, c'est clair.
Et Cersei avec l'autre salope, là. Non, mais c'est plus qu'Anastasia, là. Rien à voir.
Et puis Cersei, elle s'affirme quand elle parle à Léonidas, elle baisse pas la tête, tu vois.
Ah non,
je dis,
non,
t'es mon champion ou t'es pas mon champion alors que
ça aurait été bien qu'elle lui mette une petite claque. Vas-y, Tu y vas maintenant.
Ah ouais, non, incroyable. Il c'est très beau couple.
C'est qui la femme? C'est toi ou c'est moi?
Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe?
Bah, il essaye de, le réalisateur essaye de faire une Antichrist. Donc, c'est-à-dire un couple qui baise au ralenti, mais avec un peu moins de talent. Donc, c'est voilà, ça baise, mais
oh,
c'est gentil.
C'est vrai,
mais c'est pas
c'est vrai comparé à la scène d'Antichrist. Ça, ça baise bien.
Putain, ouais, bah,
il la travaille, quoi.
Ouais, après,
voilà. Il la travaille. Oh, l'expression.
Bon, j'ai fini de te péter les fondations ici. Je vais te déglinguer là-bas. Et il a raison, parce qu'avec un corps comme ça, on dit oui à tout. Allez.
Oh mec, mais t'aurais fait une magnifique reine de Sparte parce que
ah mais moi je te le dis direct, Léonidas il tombe la cave, je dis wow 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 wow, j'ai l'impression que quelqu'un vient d'acheter ma virginité.
Bref, ensuite c'est revue des troupes parce ouais. que du coup après le
mais il a décidé d'y aller
après le réconfort, il y a quand même la bataille,
la
donc il a demandé à son capitaine de rassembler 300 de ses meilleurs hommes.
Ouais.
Qui vont partir avec lui en tant que garde rapproché, en fait. C'est pour ne pas emmener son armée. Tu vois, il décide de.
Ce qu'il ne peut pas officiellement
en...
oui, dire
pas
qu'il
peut officiellement en partir en guerre parce que Sparte ne le soutiendra pas.
Et là, on va rencontrer un personnage, et pas des moindres.
Le faillot de service.
Le fils d'Up.
Ah non, ok, on parle pas du même.
Si, bah t'avais le Théron.
Théron,
oui,
bah Théron, oui, pour moi Théron. C'est Théron.
C'est qui Théron, Théron? On l'avait rencontré un peu plus avant, en fait.
Ah, Théron,
c'est le conseiller corrompu qui va être en guerre après avec Cersei, après derrière.
Oui.
Parce que tu parlais de qui, toi?
Moi, je parlais de Fassbender. Fassbender qui est un peu faillot du style. Ouais, chef, on est avec vous.
Je suis avec toi, chef.
Alors, pour info, Michael Fassbender, donc c'est Magneto dans les derniers X-Men, etc. C'est son premier film. Il a fait des séries avant, mais c'est son premier film, 300. Mmh. Donc là, on va rencontrer Théron. Alors, Théron, c'est quoi son problème avec Léonidas?
Bah clairement il veut le pouvoir un peu, donc en fait il considère que Léonidas manipule un peu la loi pour pouvoir partir en guerre contre l'avis des oracles, enfin du conseil. Non, oui, du conseil, des oracles, des efforts, tout ça, quoi.
Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'au moment où on est en train d'exposer les 300 soldats, donc forcément il y a des jeunes et des moins jeunes. Le bras droit de Léonidas commence à dire bah voilà, dans la troupe j'ai claqué mon fils. Et là, t'as Léonidas qui commence à dire ah, « Attends, ton fils, il est jeune, il a jamais goûté le parfum d'une femme. » Et là, le mec, donc qui est le père, hein, commence à dire « Non mais t'inquiète, j'en ai d'autres. » Je me suis « Oh,
ouais, 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 c'est n'importe quoi.
Oh, la violence. » On présente les 300 soldats, valeureux soldats, qui arrivent. Et là, en effet, donc il y a Théron qui se pointe en disant « Léonidas ?» C'est quoi les 300 bonhommes là, qu'il y a dans le champ? Tu partirais pas en guerre là, rassure-moi.
Pas du tout.
Et là, t'as
on va faire un
dit,
pique-nique. C'est ça. C'est ça. Il dit on va faire
entre bonhommes, en slip, puis on verra ce qui se passe.
Puis on a décidé avec
bah, Léonidas, je vois pas les sandwichs. Bah, peut-être que c'est nous les sandwichs, ouais, t'en sais rien.
On a décidé qu'on chassait le dîner sur le chemin. C'est pas ton problème, on cueillera des baies.
Tu vois peut-être pas les sandwichs, mais moi je vois 300 beaux gibiers là.
Après, techniquement, ils pouvaient mytho de ouf, à dire non, on va faire des manœuvres.
Quoi qu'il arrive, ils mitonnent.
Oui, ils mitonnent. Il leur dit voilà, on va dans le nord. Bon, il s'avère que c'est un peu l'endroit où vont aller les Perses aussi. Ouais. Bah, c'est une simple coïncidence. C'est nous, clair. C'est vraiment, on met la cape par terre, on s'assoit dessus, tranquille quoi. Vraiment, on n'y va pas pour la bataille.
Et là, pendant qu'ils sont en train de partir, donc ils s'apprêtent à partir, etc., t'as Cersei qui dit hey, Spartiate, ramène-toi là. Il arrive, genre, attends, mais on avait dit que j'étais gay. Non, t'es hétéro, là, d'accord. Et puis elle l'embrasse et puis elle lui dit tu pars pas comme un simple homme là. Là, tu pars comme un champion là, d'accord. La ceinture WWF, tu la ramènes.
Tu sens quand même que bon, les sentiments, c'est pas son point fort.
À qui?
À Léonidas.
On ne montre pas ses sentiments. Ah ouais, c'est dit. Quand je te rappelle que dès ses 7 ans, il a été balancé, va tuer un loup. Donc,
ouais, non, mais enfin,
oui, il avait plus un porte.
Tu prends des coups de fouet dans le dos.
Je pense qu'on lui a pas appris. Dès que tu vas avoir des problèmes, surtout tu les exprimes. Non, je sais pas, c'est pas ce qu'on lui a dit.
J'ai l'impression que chez les
Spartes,
il n'y avait pas beaucoup de burn-out.
Ouais, c'est clair.
c'est sa femme, c'est censé être l'amour de sa vie. Il sait très bien qu'ils vont jamais se revoir. Elle lui donne un truc, un collier.
Ah, ils savent pas.
Si,
mec,
il le sait. Non, il le sait. Au fond, lui, ça se voit dans ses yeux. Il a déjà fait le sacrifice.
Non,
il a fait son deuil. Il va mourir.
Je suis d'accord avec Charlie. Là-dessus, il sait qu'il va mourir. Mais...
Et du coup, elle lui donne un collier. Et puis, il est là à faire ouais, non, vas-y, pas devant les communs. Tu vas me foutre la honte. Ils sont en train de se moquer de moi.
T'as bien pris ton goûter, Léonidas.
En plus, je suis en slip.
Déjà, tu m'as mis mon nom sur l'étiquette de mon slip.
C'est pour pas que tu le perdes avec tes copains.
Appartient au roi.
Moi, si j'étais Cersei, lavage à 30 degrés.
Moi, si j'étais Cersei, je dirais tu me baisses pas une dernière fois, s'il te plaît.
Ah,
grave.
Parce qu'en fait, hier soir, ça m'a pas suffi.
Non, c'est pas ça. Eh, t'as pas oublié quelque chose? Oui, merci sur la joue. C'est clair.
C'est vrai qu'il pourrait aller dans un champ de blé à côté, tranquille. Hein, parce que...
Non, mais en vrai, je l'ai trouvé. En fait, il y a des scènes fortes dans le film, et celle-là, tu te dis, ah putain, il y a un vrai amour entre les deux, ça passe nickel. Et puis surtout, je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs passe vachement bien.
Non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est... Mais Cersei, il joue extrêmement bien dans tous les cas.
Après, moi, je suis pas
parce que c'est la meilleure actrice du monde, c'est ça.
Non, c'est Angelina Jolie. Voilà.
Après Angelina Jolie.
C'est vrai qu'elle a une belle gueule de reine après derrière, en fait.
Non, elle joue bien. Mmh. Elle joue incroyablement bien.
Elle est carrément mieux qu'Angelina Jolie.
Pardon.
C'est what, motherfucker.
Pardon.
On se donne rendez-vous à la fin du podcast.
On va prendre date, l'heure, le jour. Du coup, ça part en route pour rejoindre ce long chemin qui les mènera face à Xerxès dans des ralentis, nous laissant observer ces mecs bien baraques en slip.
On a pas parlé de ça, mais tout le film est au ralenti. Par contre, sous, ouais, non, ouais, c'est vraiment.
Ouais, c'est, mais c'est stylé. En vrai, ça passe.
Alors, c'est stylé, ouais, passe. C'est stylé,
c'est
stylé sur stylé, la première heure.
C'est un peu la marque de fabrique de Zack
oui,
Snyder
c'est
aussi.
Oui, mais
ça perd sa puissance symbolique aussi.
C'est ça, exactement.
Du
quand tu fais le film épique, je trouve.
Oui, carrément d'accord.
Quand tu le fais deux, trois fois, quand tu le fais sur tout ton film,
ça passe bien.
Je te jure que non.
On en reparlera, mais à un moment, il y a quand même une partie de cache-cache entre Cersei et son fils au ralenti. Bah si, moi je m'en souviens, je me suis dit, gros,
ça dure 5 secondes.
Oui, mais c'est 5 secondes de trop belle.
Toutes les scènes qui arrivent au ralenti dans le film viennent appuyer le moment.
Non, il y en a trop.
Non, je te jure, il y en a trop.
C'est trop.
Là, Léonidas, il va rencontrer un groupe voisin. Voulant se joindre à leur bataille, nous offrant... Alors, et là, j'en suis désolé, j'ai été obligé de vous le mettre dans l'extrait. Parce qu'en fait, la réplique là, c'est... Et c'est malheureux à dire, hein, tous les beaufs, et je le pense du fond de mon cœur.
Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais.
Tous les beaufs ont repris...
Le haou.
Ah. Dites-vous que de manière générale, pour reconnaître un beauf, et je suis désolé si vous allez vous reconnaître là-dedans, mais si vous avez tendance avec vos potes à faire et qu'après, quand on vous dit quel est votre métier et que vous faites haou, haou, vous êtes un beauf. Voilà, je préfère vous le dire.
Désolé.
Et que vous regardez les vidéos de Thibaut Inchep, voilà.
C'est un homme blanc, ah, rien de rigolo.
Désolé pour vous. Et du coup, ça nous donne ça.
On a su que Sparte partait en campagne.
Ah ouais?
On tenait à se joindre à vous.
Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous.
Ouais. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès ?
Réplique de Bourg.
J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous.
Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ?
Ce n'est pas le cas.
Parce que c'est la
ils viennent pour la bataille aussi.
Toi, attendez là-bas, quel est ton métier ? Je suis potier. C'est mieux.
Surtout, j'aime bien les yeux. Ça va,
et toi,
tu dis ça.
L'Arcadien. Ouais, quel est ton métier ?
Je suis drag queen.
Sculpteur, c'est
mieux. Je suis coiffeuse. Ça aurait été mieux.
Je suis styliste.
Esthéticienne.
Je suis forgeron.
Un forgeron, c'est plus stylé déjà.
Trois.
Spartiate ! Quel est votre métier ?
J'aurais aimé quand même qu'un dise, c'est pas une réponse. Hein.
Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi.
Épique.
Cette réplique... Elle est très bien cette réplique. J'aurais adoré vous dire, c'est une réplique magnifique parce que de base, elle l'est. Mais les beaufs.
Elle est un peu
beauf
quand
même. La scène est bien parce qu'en fait, tu dis, tu vois, voilà.
Ça reste une réponse beauf déjà de base.
Carrément,
en fait.
Mec.
Parce qu'ils auraient pu dire, quel est votre vrai métier ? Quel est votre vrai métier ? On est guerrier, tu vois, après.
Ouais, non, mais là, en vrai, c'est une bonne punchline. Mais malheureusement, voilà. Par contre, oui, pour
imagine le mec qui va à Pôle emploi. C'est quoi votre métier ?
Vous êtes un loup. Vous êtes une notarie. J'aurais dit notarie, en fait.
Vous êtes handicapé. Oh, un cotorève. Micheline, regarde, il y a un Cotorette qui vient, il essaye de s'exprimer.
Vous êtes chômeur, totalement.
Allez, je vais vous trouver une place à la Sainte-Croix dans la forêt avec le copain loup et les ours, vous serez bien. Alors oui, pour répondre à la question de Badis, c'est qui eux ?
Et ben en fait,
alors, eux, ce sont des Arcadiens. Ouais. Donc, parce qu'il faut savoir que dans la vraie histoire, les Spartiates n'étaient pas les seuls à combattre les Perses. Il y avait beaucoup d'autres Grecs
mais
avec eux.
Le problème, c'est que c'est pas expliqué.
Bah oui.
C'est-à-dire que tu les vois arriver, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas pourquoi, tu sais
après,
pas comment.
Après, est-ce que tu t'embêtes vraiment avec ce genre de détails ? Est-ce que le film est
Ça reste une œuvre historique.
Au pire des cas, si jamais t'as un doute pour savoir d'où ça vient, concentre-toi sur les abdos que tu regardes.
Le problème, c'est que au début du film, tu sais pas. Et tu sais pas vers quelle voie t'amène le film, donc du coup t'es un peu perdu à ce moment-là, je trouve. Un peu déçu.
Ok. Déçu. Bah,
surtout que je comprends, ils servent un peu à rien en fait, surtout. Ça va.
Ils vont servir à un moment.
Ouais, un seul moment.
Ils vont servir à deux moments. Un qui est bien et un qui est moins bien.
Voilà, c'est ça.
Le lendemain, un jeune de l'équipe se rend compte qu'ils sont observés par une mystérieuse créature avant de découvrir un village complètement ravagé par les Perses avec des traces de pas étranges au sol avant de voir surgir un enfant qui vient mourir dans les bras de Léonidas. Cette scène-là, j'ai trouvé vraiment flinguée.
L'enfant fantôme.
Et surtout, t'as un gamin qui arrive dans la fumée, tu sais, qui marche normalement.
Et qui a une ombre de géant.
Ouais, qui a une ombre de géant. Bah, visuellement,
tu sens qu'ils sont tendus quand même.
Oui. Ils savent pas quoi.
Et puis c'est pas logique parce qu'on t'apprend que les Perses sont pas encore arrivés en Grèce en fait.
Ouais.
Oui, c'est des éclaireurs. Je dis,
c'est des éclaireurs quand même, oui, bien vénères quand même.
Je suis d'accord, c'est pas ultra logique.
C'est pas logique en fait de base.
Et du coup, c'est tout. Enfin, il fait une prédiction, le gamin.
Il lui fait une mise à jour.
Ouais. Mais il va mourir dans nulle part. Tu sais pas pourquoi. Et puis il crève dans ses bras.
C'est ça. Oui, non, c'est pas une scène qui est vraiment.
Et qui sert à rien dans le film.
Elle sert juste à créer une micro tension. Moi, j'aime bien le côté tension. Quand c'est filmé, tu vois l'ombre qui arrive, ils sont vénères, ils se mettent en phalange, tu vois, etc.
En phallus.
Ça te montre surtout qu'il y a un des immortels qui est. Il y a un des immortels qui est assez chaud en arrangement floral et qui donc a décidé de mettre tous les villageois sur un petit arbre. Alors ça impressionne comme ça au premier abord.
Ça, c'était ultra classe.
Ça fait un peu sociopathe quand même parce que c'est des éclaireurs, donc ils sont une vingtaine, ils se font chier à niquer un village et ils se disent quoi ? Vas-y, on va clouer des gens sur un arbre.
Je suis d'accord avec toi, mais pour les ennemis, c'est-à-dire qu'à un moment, toute la team de Léonidas, ils se disent putain, mais attends, le village, il est retourné, il est à feu et à sang, mais où sont les villageois ? Et là, quand ils avancent, ils découvrent que les villageois, ils sont comment ?
Morts.
Oui, alors ils sont morts, mais ils sont pas que morts. Non, ils sont morts, mais ils sont
décédés.
Pas au sol.
Ils sont morts, limite crucifiés à un arbre, mais si je puis dire.
Tu peux dire bien, j'ai envie de dire. Ils sont tous empalés à un arbre, et je trouve que ça, pour l'ennemi, tu dis waouh, j'ai affaire à des.
J'avoue, c'est la guerre psychologique. Visuellement, il y a un truc. Bien sûr.
Truc historique.
Vlad l'Empaleur, Dracula.
C'est exactement ça. Et ben c'est ça. Et du coup, historiquement, en fait, lui, il a empalé justement des gens toute son année pour arriver à son royaume pour faire peur. À l'ennemi, et je pense que ça voulait
refléter
ça. C'est
pour ça qu'il l'appelait Vlad l'Empaleur.
Tu peux être n'importe qui, je pense que quand t'arrives dans une année où tu vois que des gens empalés, tu dis ouf.
Et ben, je pense que c'est une petite idée par rapport à ça. Après, je pense
qu'aujourd'hui ça t'impressionne. Je pense que dans l'Antiquité c'était quand même plus courant que. Enfin, tu vois.
Alors, les Spartiates continuent leur avancée en longeant les montagnes et ils aperçoivent au loin toute une flotte de bateaux.
Ah, mais attends, ils arrivent aux portes chaudes, qui donc situées entre les gorges profondes.
C'est
et
des portes quand tu les ouvres. Oh. chaude. Et là-bas, c'est quoi une gorge profonde?
Donc ils arrivent aux portes chaudes. Et là ils tombent donc nez à nez avec la flotte de Xerxès, une partie de la flotte de Xerxès.
Il y a pas de gorge profonde alors. Moi j'ai cru que c'était historique et j'avais raté ça.
Bah non, c'était une vanne. Les portes chaudes, les gorges profondes. Ah oui, bien sûr. Ce mec n'a aucune culture.
J'ai jamais signé pour ça.
Et donc ils arrivent sur la comment? Donc ils arrivent face à la mer, et là il y a la flotte de Xerxès.
Titre de Calogero, face à la mer. Pardon, excuse-moi, vas-y Charlie, on va y arriver.
Oh la vache, l'enfer, ça va.
Voilà, ouais, c'est clair. Et donc oui, ils arrivent donc.
Face à la mer.
C'est l'endroit où est censé avoir lieu la bataille. Et il s'avère que la flotte de Xerxès est en train d'arriver au loin.
Ouais.
Et
là, qui est impressionnante.
Oui, impressionnante. Et ils réalisent que bah, du coup, les dieux grecs ont décidé de leur donner un petit coup de pouce en créant une tempête.
Poséidon, si je peux me permettre.
Exactement. Ou Zeus, je ne sais pas, c'est lequel.
C'est
la mer. Oui, mais c'est les éclairs en même temps.
Bah,
tu
peut-être
vois.
Que les dieux ont fait un feat.
Bah, voilà,
dans le film, c'est ce que c'est.
Ça dit qu'on pose ensemble.
C'est Zeus. Bon, alors Zeus, avec peut-être l'aide de son frère, a décidé de détruire une partie de l'armée.
Attends, Poséidon, c'est le frère de Zeus ?
Oui.
Okay.
Qui sont le fils de ?
Et Hadès aussi.
Aucune idée.
Chronos.
Ah ouais, d'accord. Oui. Rien à voir avec Chronopost alors. Super, excellent. Allez. Et donc oui, vas-y Charlie.
Eh bien du coup, il y a une partie de la flotte qui est détruite.
J'ai eu du mal à déterminer si c'était quand même une grosse partie ou pas.
Bah, on te laisse penser que c'est une grosse partie, justement pour te montrer après que, oh putain, mais je pensais que la flotte avait été détruite, et non, en fait, c'était une toute petite partie.
De toute façon, c'est pour te rassurer, les historiens ne savent pas combien il y avait de personnes en face, de toute façon, chez les Perses. C'est très vague. Hein.
Oui. Très très vague.
Allez,
excellent. Tu sais quoi,
non mais c'est trop fort. Parce que tu sais, sur cette bataille-là, ils te disent, les Grecs étaient 10 000, les Grecs, ils sont entre 70 000 et 300 000.
Oh. Les perses.
La fourchette, la fourchette mais est pas trop large.
J'ai l'impression que c'est comme les manifestations entre la CGT et les flics.
C'est clair, c'est exactement ça.
Ils étaient 4 et eux 4 millions. Ah oui, d'accord.
Une manifestation d'il y a 2 semaines, on sait même pas combien ils étaient. Alors il y a 2500 ans, je pense que c'est
mort. Ils arrivent à te bien te dire 10 000 d'un côté, mais de l'autre.
J'imagine les mecs sur une colline à la louche. Tu dirais qu'ils sont combien? 4 000. J'aurais dit 4 millions.
Après, on voit toujours qu'ils sont suivis justement par une personne étrange,
mystérieuse,
même difforme, on pourrait dire.
Oui, quasimodo del Paris.
J'avais cette même vanne.
Bah on a tous eu cette vanne en même temps.
Oui, donc la flotte perse disparaît dans les eaux. À la grande joie oui, des Spartiates qui font la taf, sauf Léonidas
qui nous offre un plan magnifique avec en espèce de pleine nuit là. En fait, il y a Léonidas qui va poser avec son bouclier comme ça,
un mec
avec la pluie qui vient fouetter le bouclier.
Tu sais que ça souffle quand, pour te protéger de la pluie, tu le mets pas au-dessus de ta tête mais sur le côté, c'est à dire la pluie arrive à l'horizontale en fait.
Surtout moi, ce qui me fait marrer dans ce plan, c'est que tu te dis vraiment, on est d'accord que les gens, enfin les mecs, sont toujours en slip, qu'en fait personne se dit il pleut, on va peut-être mettre un petit pull pour affronter la mort.
C'est des poseurs.
T'as ton bouclier, ton arme, ta cape, ton slip, c'est tout.
Toi, dans l'équipe spartiate, t'aurais été chaud. Les gars, quelqu'un me petite laine pour moi. Oh non, je me suis cassé un ongle. J'ai pris un caillou.
T'as rien à foutre dans l'équipe.
Mais moi, je pense que sur les 300, ça me fait marrer. Le lendemain, les 300 avaient un rhume. C'est juste que je sais ce que je
sortais. Non, mais attends,
c'est clair, ils sont pas malades.
Il peut pleuvoir et faire chaud en même temps.
Ah,
t'es déjà là en Grèce Et il me semble pas.
Toi, de toute façon, t'aurais été dans l'équipe, le film se serait appelé 300 plus l'autre.
200 plus 1, plus un rationnel. Excusez-moi, moi je vais à la gare. Oh, je vais juste mettre une cuirasse.
Non, mais il est juste en slip.
Il se met pas en slip, lui.
Il est en arrière-plan.
Il a voulu mettre une cuirasse. Oh, le fragile.
C'est qui le mec en grenouillère derrière?
Tu voulais prendre mon plaid?
Les gars, non, je suis désolé, je fais pas plus de 35 heures, donc là je vais me coucher.
Ouais, c'est clair.
Ah, mais bon. Non, mais moi je fais pas caca dans l'herbe.
Ça va.
Non, moi je crie pas aou aou aou, d'accord? Je suis pas comme vous, bande de beaufs. Côté Cersei, ça complote un peu. On sent que le vent commence à tourner et qu'elle essaye d'anticiper les choses. Qui peut m'en dire un peu plus?
Eh bien, elle reçoit donc un membre du conseil, donc qui est un peu l'assemblée locale, qui détermine qui on envoie à la guerre ou pas. Et donc voilà, ils discutent sur le fait qu'elle aimerait bien parler devant le fameux conseil. Parce qu'elle sent venir l'emmerde quand même. Elle se dit, ils sont 300, en face, ça frise le million. Enfin,
femme intelligente.
Ouais. Femme intelligente,
oui. Elle doit dire, bon, je sais que mon mec, il était pas bon en maths. Après,
Après ça tourne quand même beaucoup autour de son mec. Hein. Elle vit uniquement à travers de son mec.
Elle a raison, c'est la reine. Donc,
dire, elle pourrait avoir aussi un peu d'indépendance et dire juste Sparte, en fait.
Son mec lui apporte son statut. Donc voilà. Non, je veux dire, c'est un temps qu'on n'a pas soulevé pour ce podcast.
Après,
t'aurais fait une michto tellement exceptionnelle. Toi.
Non, mais
seulement,
on sait pas
je suis pas né avec le bon sexe. Hein.
Après, on sait pas d'où elle vient.
Je suis un garçon, mais je me sens michto au fond de moi.
Ça a pas Anastasia. Après, on sait pas d'où elle vient. Elle aussi, c'est sûrement quelqu'un de connu ailleurs. Ouais. Elle a sûrement été mariée à lui.
Déjà, elle n'était pas assez belle pour être chevée par les efforts.
Bah, à quelle heure elle était pas? T'as vu comment les canons?
Oui, donc il y a un trick de couloir. Elle sent venir la douille quand même. Et elle se dit, j'aimerais bien intervenir devant le conseil pour essayer de faire un peu avancer le dossier, quoi, tu vois.
Alors, par contre, après, je suis pas d'accord. Qui a dit qu'elle pensait simplement qu'à elle? Parce que tout le long, elle commence. Certes, elle dit Léonidas.
On n'a jamais dit qu'elle pensait qu'à elle.
Non, non, mais qu'elle disait par rapport à son mari. Et en fait, elle parle aussi pas mal des Spartiates, en fait, de Sparte.
Elle veut plus sauver son mari quand même que.
Je suis pas d'accord. Moi, pour moi, elle a essayé de défendre la ville, moi, globalement. Ouais.
Et en effet, son mari en fait partie, mais c'est mon mari et des Spartes, quoi.
Donc voilà, donc un trick de couloir, il y a une petite discussion, quoi, à la nuit tombée avec un mec lambda.
Avec un conseiller.
Qui a une bonne tête d'intergrec, d'ailleurs. Je trouve qu'ils l'ont très bien casté aussi.
Mais le casting est très bien dans ce film, en vrai. Hein. Franchement, il est nickel.
Oui.
Et puis après, on retourne côté Michael Fassbender. Alors, on va vite se rendre compte que non seulement il est déter à tous les buter, d'accord, les Perses.
Et à mourir aussi.
Et qu'il est excité à l'idée de rencontrer quelqu'un qui serait susceptible de pouvoir le buter. Alors, c'est vrai qu'il y a un gars qui commence à dire, tu te rends compte si quelqu'un nous tue? Et puis commencer à dire, moi j'aimerais bien le rencontrer, putain, j'aimerais avoir cet honneur. Tu vois,
en même temps, est-ce que tu peux t'attendre à autre chose que d'un gars qui finalement s'est fait tabasser depuis ses 7 ans? Combattu avec des loups, à voler, tuer.
Ils ont mélangé deux mythologies, en fait, d'une certaine manière. Je sais pas, les Spartiates font très samouraï, tu vois, ils ne veulent que mourir, en fait.
Toujours est-il, c'est qu'arrive un moment, il y a un type qui va arriver, qui va rapidement se faire Jamel Debbouze par Michael Fassbender.
Ah oui.
On voit Michael Fassbender et toute la team des Spartiates qui sont en train de bâtir un mur.
Oui, mais vous avez passé le combat.
Non, c'est après.
Non, non. Oh, tu peux être plus blasé.
Ouais, c'est clair. Non, non. Est-ce que tu peux le faire en... Non, c'est après.
Bah, il y a eu un petit combat ou alors non, après, bah, ils utilisent
après.
Les...
après.
Ils utilisent, oh, ils utilisent après. Les corps justement des Perses pour ouais.
Simon,
construire un mur.
C'est ça.
Mais y a pas... Avec les pierres.
Mais il n'y a pas eu de combat encore.
Pas de combat.
Je sais, alors effectivement, mais ils utilisent des corps de Perses.
Tu,
mais...
tu, te le fais, tu te fais l'idée qu'il y a eu un combat.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as un espèce d'envoyé Perse qui commence à dire Michael Fassbender, dis-moi, toi et tes petits potes en train de construire un mur, vous pourriez arrêter de... Et puis là, il est en train de dire, attends voir, comment ils sont en train de consolider les pierres? Ils sont en train de consolider les pierres avec des corps.
Oui, voilà, le, alors l'émissaire perse n'est pas du tout respecté, hein, clairement, ah, oui. Il le regarde de travers.
En même temps, le mec est là pour dire, eh les gars, si vous vous mettez à genoux, on oublie tout.
Bah, voilà. Disons qu'un mec arrive et qui dit, vos femmes vont être des esclaves, vos enfants vont être des esclaves, vos grands-parents vont être des esclaves... Est-ce que tu as envie de négocier avec lui?
C'est une, c'est une technique de négociation.
Ah ouais, d'accord.
En vrai, par contre, je trouve que la menace, elle fonctionne de ouf. Tout ça pour dire, Michael Fassbender, il va trancher le bras du type. Il lui lance une putain de punchline en disant, bah, tu sais quoi, si tes flèches, elles couvrent le soleil, nous, on se battra à l'ombre. Côté Leonidas, alors là, justement, pendant que Fassbender est en train d'amputer un type, Leonidas, il est en train de parler avec son bras droit. Et là, il y a un fameux gars qui arrive, la fameuse créature mystérieuse, l'espèce de bossu de Notre-Dame,
The
Quasimodo.
Effialtes.
De quoi?
Effialtes.
Effialtes.
Il s'appelle comme ça?
Ouais, c'est son blaze.
Et c'est là où tu vois encore la bienveillance de Leonidas. Parce que, en fait, le mec, il est bossu, il est difforme. Donc, tu comprends qu'à la naissance, en fait, lui, au niveau de la colline, la mère, elle l'a caché. Elle s'est dit, à mon avis, je le sens mal. Je pense qu'ils vont le balancer au sol. Donc, je vais le mettre dans le panier.
Ouais, elle l'a bien caché, quand même. Parce que.
Parce que, oui, effectivement, il aurait vraiment pas passé le.
T'imagines, maman, est-ce que je suis un enfant comme les autres? Oui, oui, bien sûr, tu as toutes tes chances.
Ah, merci, maman.
On n'est pas juste sur un problème d'ongle difforme, en fait.
Qui est un personnage principal, finalement, hyper important de par la suite. Ouais. Mais finalement, c'est là où tu vois aussi. Ouais. Leonidas, c'est vraiment un connard.
Ah, mais c'est un connard et un débile aussi.
Ouais. Hein, donc là, t'as le Quasimodo qui se pointe, t'as le chef qui commence à dire ouais, casse-toi, sale créature. Et Leonidas, bienveillant, en lui disant non, écoute, c'est quoi, vas-y, tu veux me parler, on va parler, dis-moi tout, c'est qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il lui dit,
son capitaine n'a rien raciste et il le dégage.
En gros, il lui dit que lui, le
donc,
The
Quasimodo.
Quasimodo, The il Monster. Veut combattre pour.
L'armée
des Spartiates parce qu'il se sent puissant et voilà. Parce que du coup il veut aider par rapport à son père, etc. Il veut reprendre la légion de son père, je sais pas quoi. Mm-hmm. Et là Léonidas lui dit lève ton bouclier. C'est et ça. Après il arrive pas à lever son bouclier, ah, il lui dit ah bah du coup je suis désolé,
exactement,
en gros on va pas pouvoir te prendre, parce que du coup tu peux pas lever ton bouclier.
Mais en quoi c'est bâtard?
Parce qu'il lui trouve aucune autre solution.
Bah non,
c'est-à-dire
si,
que
il lui dit
bah,
il va ramasser les corps.
Il lui dit va soigner les corps, va faire la pute.
Non, mais il lui dit tu veux aider.
C'est clair.
Il lui dit tu veux aider, tu veux participer, pas de problème.
Mais
tu restes.
T'es pas venu pour ça.
Bah ouais, mais le problème c'est que.
Il lui dit le bouclier sert à protéger l'homme qui est à gauche de toi.
Oui,
il lui dit textuellement.
D'accord.
Et ben dans ce cas tu le mets tout à gauche où il y a personne à sa gauche. Et dans ce cas il s'autoprotège.
Oui, on est d'accord.
Ouais, pas bête. Oui,
on est d'accord.
Et de deux, le mec au départ dans la conversation, non parce que je le déglingue, Leonidas c'est son heure, d'accord, ouais. Dans la conversation au départ il lui dit est-ce qu'il y a un chemin qui permet d'arriver sur nos arrières, c'est ça la conversation, ouais, qu'il avait avec son, et le mec arrive, le fameux Quasimodo lui dit oui moi je connais le chemin qui arrive et tout, il lui fait son speech, il le dégage en lui disant mec tu peux pas faire partie de l'armée, et après il revient vers ses hommes et il dit j'espère que personne ne dira qu'il y a un chemin qui arrive sur nos arrières au Perse.
Là, on est d'accord, il est débile. Mais le truc que je comprends pas surtout, c'est le basculement du personnage. Effialtes, tu comprends que c'est un spartiate.
Donc Quasimodo, c'est Effialtes.
Qui a vécu frustré, mais qui a vécu d'une certaine manière en étant éduqué par les valeurs spartiates, etc. On lui a expliqué le principe de la phalange grecque. On lui a expliqué que s'il peut pas tenir son bouclier, il pourra pas participer à la phalange.
Non, on lui a pas expliqué.
Mais ça, c'est quand même débile. Du coup, moi, je suis totalement d'accord avec Thomas, il lui explique bêtement en fait, je suis désolé, non. Tu dois tenir ton bouclier comme ça pour protéger la personne qui est à côté de toi,
oui.
Tu sais pas le faire, désolé tu peux pas protéger du coup la personne qui est à côté de toi, du coup oui. Désolé, t'es mais pas ça, dans l'équipe,
moi ça me paraît
logique en fait, s'il est que sur le côté et si lui il meurt derrière après, tout le côté se fait
mais
niquer,
lui, il était
donc c'est la même chose
non,
en fait
pas du tout.
Manière.
Lui il était venu de toute manière pour combattre et il voulait, on le comprendra par la suite, mais il voulait un équipement, il voulait faire partie de la guerre,
mais il avait son
pour
équipement.
Les Spartiates,
il avait son équipement.
Oui, non, mais de par
oui,
son
non,
père.
Oui, mais il lui donne un rôle de tu seras stagiaire, quoi. En fait, c'est ça qu'il
lui
dit.
Voilà. Mais ils veulent même pas de lui.
Mais toi, quand t'arrives en fait dans une entreprise, t'arrives, tu veux dire bonjour, je veux être manager. Tu fais pas tes preuves. Tu connais pas le produit. tu connais pas le produit et tu trouverais que c'est en gros que le chef d'entreprise est un gros bâtard parce qu'il t'embauche pas.
Il voulait pas être manager, il voulait être employé.
Il y a une différence entre dire ok, t'es pas manager, mais par contre, on a besoin d'une femme de ménage.
Mais il est pas femme de ménage, il participe, je suis désolé d'une certaine manière. Moi, je trouve que le basculement du personnage.
Ça fait longtemps que t'as pas ramassé de la merde, Thomas, parce que sinon, tu dirais pas ce genre de choses.
Toujours est-il, Quasimodo, quand il voit que Léonidas lui dit bah non, en fait, tu peux pas le faire, il le prend mal, Quasimodo. Il commence à dire non, Léonidas, tu fais une erreur. Et il s'arrache. Et tu dis bon, bah voilà, jusqu'alors, tu dis bon, bah tant pis pour lui. Là, toujours est-il que l'équipe de Léonidas va se préparer à leur première bataille.
C'est clair.
Oui, ils sentent le sol qui tremble. Les cailloux commencent à sauter tout seuls. Ils se disent bah, ça, c'est en général, c'est signe que ça arrive. Hein.
Léo, c'est toi qui as lâché une caisse là? Il dit, non, je crois que c'est autre chose.
Vraiment que c'est autre chose.
C'est vrai que sur le
moment. Donc cette odeur de mort, c'est pas toi. Alors,
c'est vrai que moi, sur le moment, quand il y a eu le tremblement de terre, je me suis dit ah, d'accord, et Fialtès est en train de se venger, il leur balance un rocher sur la gueule. Non. Ce qui aurait été plus logique, mais un peu plus brutal. Mais
alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première bataille?
Ah bah mec, on a le droit, donc une,
du bottage de cul.
Une charge d'infanterie. Ouais. Donc tu as les Spartiates qui sont donc dans leur espèce de petit corridor là, qui est censé annuler le nombre adverse. Les gars qui arrivent et donc Léonidas qui balance son petit discours d'avant bataille quoi. Après, ouais, il y a deux écoles dans le discours. Il y a l'école Théodène du Rohan où c'est à la gloire, à la fin du monde, voilà. Et puis il y a l'école Léonidas où c'est
les
Maraves, les fils de pute, quoi.
C'est des gitans.
C'est un peu moins recherché.
Eh les gars, c'est pour tous les Joe qui nous ont offensés. Les Hoffman
de ses morts.
Le David et les Hoffman de ses morts.
La Calando, c'est mort, j'y suis.
C'est pas loin d'être ça.
Voilà, donc voilà, il les motive un peu avant la bataille. Et puis ça s'entrechoque quoi.
Et c'est stylé.
Et là il y a une magnifique scène de guerre.
Bah oui, carrément.
Ah bah il y a tout simplement une magnifique scène de guerre avec une magnifique musique.
Et là le film va nous offrir un plan qui est magnifique. C'est un travelling latéral où on va suivre Léonidas qui est en train d'enchaîner les Perses espèce de ralenti accéléré.
Enchaîner des cascadeurs qui veulent mourir hein, parce que franchement ils sont nuls à chier. En fait,
je sais pas, Thomas, t'as déjà été sur un champ de bataille?
T'as déjà été Spartiate ou pas?
Franchement, je l'ai fait, ouais. Sur Assassin's Creed Odyssey, j'étais bien meilleur que je tiens à le dire en fait.
Est-ce que tu peux me montrer à quoi tu ressembles en slip et en
Vas-y, je vais te voir en slip et avec un casque.
Le public risque d'être déçu.
Et donc lui, il est
franchement étonné, on ne sait pas après.
Souvenez-vous, 300 plus l'autre.
Oh, grenouille, là. Non, mais magnifique plan d'inspiration un peu old boy pour le coup.
Ouais. Bon, après, c'est un film de 2005.
Non, mais tout l'accéléré, le slow motion.
Et là encore, on est sur la partie du film qui franchement se regarde d'une traite. Il n'y a pas de problème.
Une fois, c'est très épique.
Non, mais c'est vrai que c'est un des plans iconiques. Là, c'est vraiment le. Enfin, tu penses à 300, le plan qui a marqué tout le monde. Je veux dire, au moment où on l'a vu au cinéma, quand on est sorti du film, on s'est dit. Wow.
Et puis finalement, ça se finit à la falaise.
Ah oui.
Oui, la technique magnifique.
Petit ascenseur émotif dans le sens où tu dis putain, leur première bataille c'est plutôt tranquille, ils pètent pas mal de Perses et puis en fait leur formation fait en sorte de ramener les derniers Perses
comme
au niveau d'une falaise
en fait, hein.
Et finalement ils sont en train de les faire chuter.
C'est le meilleur moyen pour savoir si quelqu'un s'est volé, tu le balances d'une falaise et s'il s'écrase
tu avais dit que tu t'avais pas volé, mais tu me dois tous ces Perses.
Et là les Spartiates ils disent oh putain, c'est un très bon début, on est plutôt pas mal. Et là ils se rendent compte, ils tournent la tête et ils voient qu'il y a toute une armée perse à des kilomètres
hyper
plus loin.
Stylé, ouais.
Hyper
stylé.
Ouais.
Allez.
Ouais, je fais des jeux de mots sans me rendre compte, je m'appelle Badis. Et là, ils se rendent compte que en fait, les Perses en face, c'est plus ou moins ce qu'ils avaient prévu.
Oui, ils vont se battre à l'ombre.
C'est et ça. Puis ils vont commencer à lancer une scène de flèches. Alors,
mais il a plus de flèches surtout. Faut se dire putain, ça fait quand même beaucoup de flèches quand même.
Oui, je suis d'accord. Là, ça fait,
ça fait quand même beaucoup de flèches et beaucoup d'archers qui l'ont lancé. Alors, en même temps quand même.
Ça fait tellement
en fait.
De flèches que arrivant, si toi t'es pas au courant qu'il y a un lâcher de flèches, putain, c'est nuageux.
C'est clair. C'est un peu compliqué, ouais.
Et puis surtout, ça fait beaucoup de flèches qui partent de très loin quand même.
Ouais. Là, du coup, ils se protègent avec les boucliers et en fait, on a un autre plan iconique. C'est Léonidas qui se relève avec toutes les flèches sur le bouclier. Il prend son glaive.
Tellement improbable ça. C'est
et là il vient
faire.
Toutes les tranchées et franchement tu dis putain, en termes de plan ça se pose.
Non mais franchement visuellement d'un pur point de vue uniquement visuel, c'est impressionnant.
Ce film est dingue. Et là du coup en fait ils se rendent compte qu'il va y avoir une deuxième vague de Perses.
Ah bah troisième, parce qu'ils ont eu infanterie, archerie et cavalerie. Ah bah le résultat c'est 300-0 en fait.
C'est ça. Là c'est clair, c'est que tu comprends en fait qu'ils ont perdu aucune personne.
Pour l'instant c'est nickel.
Et en revanche ils ont baisé pas mal de cul quand même.
Je peux te dire que les Perses ils se sont fait percer. Retour avec. Je vous en prie. Donc là le but de Cersei, ça va être de pouvoir parler en fait au conseil pour dire écoutez les gars, là il y a mon mec, il est parti avec 300 guerriers, il faut lui envoyer le reste de l'armée parce que bon, ils sont quand même des millions en face.
Parce qu'il est un peu bête.
C'est là qu'il y a une espèce de scène de cache-cache de merde avec son fils. Ah ouais, et puis on a au ralenti, mais comme ça on
s'en fout. Mais de toute façon, on va pas se mentir, toute la partie avec Cersei, elle est importante parce qu'elle t'explique en gros la conclusion du film. Mais c'est vrai qu'elle est chiante en fait.
Ah, je kiffe
manière,
qu'on l'appelle
en fait.
Cersei par contre.
Ouais, grave.
C'est vraiment Cersei. Un truc de ouf.
On a de nouveau un plan sur Leonidas parce qu'on revient avec les Spartiates. Et puis en fait, on va se rendre compte qu'il va être invité par Xerxès. Parce que Xerxès, on nous en parle depuis le début, mais on ne sait pas à quoi il ressemble.
Déjà, donc, comme toute personne saine d'esprit, il mange une pomme en discutant et en achetant les blessés.
Quand tu es gaulé comme lui, tu sens bien que ce n'est pas un Big Mac que tu vas taper, mais c'est de la pomme.
Surtout entouré de cadavres en plus.
Oui, surtout que les mecs sont en train de discuter et de plaisanter, entourés de cadavres au son des mecs qu'on est en train d'achever.
Après, comme on a dit, c'est des gars qui se font fouetter depuis 8 ans.
C'est vrai qu'on n'a pas la même vision. C'est vrai que d'une certaine manière, un mort, c'est un petit déjeuner normal, en fait, d'une certaine manière.
Je peux te dire qu'à l'époque, les mecs qui disaient je suis zèbre, déconstruit, etc., ça devait pas courir les rues. Donc, à mon avis,
les 300 plus 1, quoi.
Ouais, voilà. 300 plus l'autre.
Et du coup, comme tu dis, c'est la première fois qu'on voit Xerxès, que j'ai appelé Dalcim, moi, dans ce film.
Alors,
en fait.
Pourquoi
la même référence. Dalcim à mort.
Dalcim dans Street Fighter. De Street Fighter 3.
Oui, du coup, là, tu as Michael Fassbender qui arrive en courant au loin, comme ça. Michael Fassbender. Et donc, il lui dit Léo, il y a quelqu'un qui arrive. Et c'est pas un détachement militaire, c'est vraiment genre un émissaire. Et donc, ce brave Léo, il va et se rend compte que c'est le fameux Xerxès.
Alors, Xerxès, pour ceux qui connaissent Street Fighter 2, c'est Dalcim qui a décidé de se travestir.
Ah, mec, c'est incroyable.
Et de faire beaucoup trop de piercings. Hein.
Ils ont abusé sur les piercings. Ouais. Genre, déjà, c'est mal fait. Parce que tu vois les prothèses, et puis c'est sur lui, un prince
Albert.
Lui,
c'est l'empereur des tatoueurs perceurs.
Ah oui, carrément. Il a un prince Albert, c'est sûr.
La voix est incroyable. Moi, je l'ai vu en VO.
Ah oui, en français, il a déjà une voix vachement grave, vachement...
Alors, en VO, il a la voix aussi ultra grave, et c'est vraiment ultra stylé.
Ah ouais.
C'est pas des cordes vocales qu'il a, c'est deux séquoias, en fait, qui vibrent. Tu vois, c'est monstrueux,
le mec,
quoi.
Il a un caisson de basse.
Il descend 3 octaves. Bonjour.
Leonidas. Tu sais qui je suis.
Non, mais c'est clair, il vient du Mordor, en fait. Hein, c'est ça, en fait.
Et le problème, c'est que Xerxès, il sait pas vraiment parler à Léonidas. Parce qu'en fait, il salue le bravoure de Léonidas, et ainsi que de ses guerriers, en disant, non, mais attends, ton équipe, elle est stylée. Vos slips, ils sont quand même plutôt pas mal. vous avez pété nos meilleurs gars. Moi, ce que je te propose, c'est que, en fait, je te mette bien. Toi et tes potes, tu seras tranquille. Mais par contre,
je serai ton N plus 1.
Je serai ton N plus 1.
Oui, c'est plus ou moins ce qu'elle lui dit.
Et comment on fait avec un N plus 1, Léonidas? C'est pas compliqué. Tu vois tes genoux? Ouais, te les pose au sol. Et ça nous donne ça.
Une telle offre, seul un simple d'esprit la refuserait. Mais l'idée même de m'agenouiller me... Vois-tu, j'ai tué tellement d'hommes de ton armée.
C'est nul la VF.
Non, que j'en ai gardé une méchante crampe à la jambe. Si m'agenouiller serait un vrai supplice.
Tu ne tireras aucune gloire de ton sacrifice.
C'est pas mal la voix.
J'effacerai jusqu'au souvenir de Sparte dans l'histoire.
Mais tu vois que c'est pas
chaque
naturel.
Chaque morceau de parchemin grec sera brûlé. Chaque historien grec, chaque scribe aura les yeux crevés. Et la langue arrachée. Et prononcer le nom même de Sparte ou de Léonidas sera puni de mort.
Et je baisse ta mère.
Surtout, le truc est marrant, c'est que je sens qu'ils ont rajouté des grelots.
Ne saura jamais que vous avez existé.
T'as des grelots sur sa voix toutes les deux secondes. Hein.
Le monde saura que des hommes libres se sont battus contre un tyran. Une poignée d'hommes contre des milliers.
On entend bien la
et
mère.
Et avant que la bataille ne fût achevée, que même un dieu roi avait pu saigner.
Que même un dieu roi aura pu saigner. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Ensuite, on a une petite scène entre Michael Fassbender et le fils du capitaine, là, je sais plus comment il s'appelle.
Un métier de Astios,
bon Astios ou quelque chose.
Ouais. Le mec qui va mourir.
Ils se font des blagues à la Spartiate du genre « Ah, tu te bats comme une meuf. Eh, toi, tu te bats comme une pédale.
» C'est clair.
Ouais, « je suis pas un pédé.
C'est très Spartiate. Quoi. C'est très donc, ils sont en train de fabriquer un mur avec des cordes de Perse. En prévision de l'attaque qui va venir.
Exactement, parce que Léonidas, il n'a pas fait ça bêtement, le fait d'aller voir Xerxès, parce qu'il sait très bien qu'en piquant son ego, Xerxès, il va envoyer ses meilleurs guerriers, et du coup, Léonidas, il est plutôt préparé. Et qu'est-ce qui se passe?
Du coup, on a le droit à l'arrivée des immortels, donc des ninjas,
Ninja Samurai en fait, clairement. En fait.
Dark Vador aussi un peu, hein, parce qu'ils ont le souffle qui va aussi.
Et là, ça part en bataille. Et juste avant, ce qui était intéressant, c'est quand clairement les Spartiates, bon bah ils défonçaient tout le monde.
Ouais.
Là, on sent que
ça commence à être plus dur.
C'est un peu plus technique. Là, il va y avoir des pertes.
Et puis on se rend compte que Xerxès, il a une cuvée des monstres qui est plutôt pas mal.
Ah bah il a récupéré un peu tous les difformes du continent. Donc il y a.
Mais les difformes qui savent se battre. Hein.
Oui. Par contre, qu'on soit d'accord, les Spartiates, ils ont un mental de ouf parce qu'ils voient venir devant eux des créatures d'une autre planète ils arrivent à les dégommer, mais tu sais, à aucun moment ils sont fébriles, à aucun moment ils doutent.
Ah, mais là c'est le moment où tu comprends que ça devient du n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils envoient tout et n'importe quoi. C'est bon, c'est le festival du n'importe quoi.
Qu'est-ce que j'ai là dans le sac? Bah, vas-y, envoie-leur.
Un rhinocéros préhistorique, envoie-le.
Il y a un T-Rex? Non, ouais,
c'est
dommage.
Ça arrive juste après, mais c'est le seul bon point aussi, c'est que c'est le seul moment où on a les Arcadiens, les mecs qui étaient arrivés, qui participent à la bataille parce qu'ils étaient planqués dans un petit passage secret, derrière deux buissons en fait. Ça me fait marrer comme passage secret, c'est vraiment éclaté. Et derrière, ils participent et ils butent également, eux, deux, trois immortels. Et ils sont pas très immortels du coup comme immortels.
Et là c'est compliqué parce que Xerxès, pour le coup, il était en train de regarder ça au loin, cette fameuse bataille. Il est en train de se dire: putain, mais les gars là, ils arrivent à baiser ma meilleure équipe en fait. Du coup Xerxès, il commence à avoir le doute. Il se dit: putain merde, je crois que Léonidas et sa team, ils sont quand même vachement plus violents que je ne l'imaginais.
Et il dit comme quoi il sent un frisson, et c'est quelque chose de très humain. Et j'ai beaucoup aimé cette partie.
Oui, parce que pour le coup le mec est décrit comme un dieu. Et là t'as la Vov qui dit
il se décrit comme un dieu.
Décrit comme un dieu. Et puis Léonidas, il est un petit peu taquin parce que la plupart des morts perses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les envoyer au pied de Xerxès en disant: écoute, tiens, ça c'est ce qu'on appelle, c'est ce que t'as perdu en chemin, c'est tes soldats qui sont morts.
L'autre est vexé, donc là il lui envoie vraiment la totale. Il lui envoie du rhinocéros,
l'éléphant géant, des mages. J'ai trouvé ce moment incroyable avec les mages.
Des grenadiers.
Oui, alors soi-disant, ils
appellent ça des mages.
La magie, ça s'appelle juste la technologie.
Ouais, mais j'ai kiffé. C'est vraiment très spécial. Ce moment-là est magnifique avec justement les mages, entre guillemets, qui envoient des boules magiques.
Explose, etc.
Ouais, c'est magnifique ce moment-là. Ouais. Des ouf.
Et pour le coup, l'équipe de Léonidas arrive à tous les éclater. Et là, on se retrouve à un moment où le fameux bras droit de Léonidas a son fils qui est dans l'équipe.
Oui, c'est la mort du premier rôle parlant du film.
Exactement. Ouais. Oui, parce que là, pour l'instant, la team des Spartes, en vrai, ils sont plutôt pas mal. Depuis toutes les batailles, ils ont perdu personne.
Face aux immortels.
Donc ça va.
Et là, il y a un cavalier qui surgit de nulle part et qui commence à littéralement décapiter le fils du bras droit de Léonidas.
On est d'accord que c'est pas du tout crédible comme moment en fait. Un cheval qui charge, un mec qui t'appelle et tu l'entends pas arriver et tu te décapites. Enfin bref, surtout que juste avant, les mecs viennent d'aligner 40 ou 50 mecs.
De toute façon, au moment où ils sont en train de filmer le gars, t'as envie de dire: ouh, toi, à mon avis, c'est une fin de tournage.
Clairement. ils ont tendance à rompre la fameuse formation de la phalange assez souvent, sans trop de conséquences au final. Hein, parce que les mecs arrivent un peu au compte-gouttes. Tu vois, ils sont des millions, mais ils attaquent un par un. Enfin bon, après, voilà.
Bizarrement, comme dans toutes les scènes de guerre.
Voilà, c'est toujours la même chose. Et donc le capitaine est un peu déçu de voir son fils, alors qu'il en a d'autres.
Oui.
Il l'a dit quand même au début.
Le parfum de femme, ouais, mais je m'en fous, j'en ai d'autres.
J'en ai d'autres, mais ça lui.
Ah, il est quand même attaché. C'était un Pokémon qui l'avait depuis longtemps quand même. Il avait bien fait évoluer.
Il bute quelques perses quand même pour la bonne mesure. Il leur montre qu'il y aura pas de rémission. Quoi.
Ouais. Et là, on arrive directement dans la team des freaks de Xerxès, vu qu'on arrive avec une biquette à chicha.
Incroyable ce moment-là.
Ça, c'est sorti
la biquette. Mais en plus, tu le vois une fois et tu le vois pas par la suite, alors que t'as envie de le voir.
Mais littéralement, dans le film, tu vois une biquette qui est en train de faire un instrument de musique. Mais tu sais, ça va les gars? Ouais, vous êtes en train de me filmer. Une biquette à chicha.
Et une femme patate aussi.
Une femme patate.
Ah oui.
Des nanas qui se galochent, mais en fait, la moitié de leur visage est complètement éclatée, etc. Donc là, la team freak de Xerxès, tu te dis putain,
sacrée soirée les gars.
Sur le Darknet, quoi.
Mais alors pourquoi on voit cette
scène-là? On sait pas.
Parce qu'il y a Hephaïstès qui est
en train de juste pour
il y a Quasimodo.
Il y a Quasimodo qui a décidé de passer à l'ennemi et qui plus ou moins vient voir Xerxès et lui dit: écoute, pour de la moula et de la tocha, je trahis les Spartiates.
Alors c'est marrant parce que.
Et un uniforme.
Moi ce que je veux, c'est de la chatte. Et c'est un uniforme. Ce qui, lorsque tu cumules les deux ensemble, ça en dit long sur ses pratiques sexuelles.
Vas-y, moi je suis déguisé en Spartiate et puis là tu vas me faire des sacrés bizarreries, toi.
Oh, en même temps, le truc, faut le vouloir.
D'ailleurs, en parlant de cul, on va retourner voir Cersei qui s'entretient avec Théron. Alors, Théron, c'est le fils de pute depuis le début, hein, afin de discuter de l'envoi de l'armée pour aider Léonidas. Parce qu'en effet, en fait, Cersei, elle sent bien que le conseil, ils sont pas super chauds à son idée. Et puis, Cersei essaye de trouver un petit peu des solutions pour appuyer.
Elle sait très bien qu'il y a un mec qui domine le fameux conseil, et c'est le fameux Théron. Et donc, il faut plus ou moins la modouer si jamais elle veut parvenir à ses fins.
Et comment on amadoue un mec comme ça?
Après, elle tente beaucoup de choses. Elle lui dit, mec, quand même, pense à l'avenir de Sparte, elle mon mari. Elle cherche le dialogue et elle sent assez vite que l'autre est plus intéressé par son boule.
Bon, en même temps, le claque.
Oui.
Elle le fout de tard dans la gueule.
C'est vrai qu'elle perd vite son...
Son sang-froid.
Son sang-froid.
Bah, elle comprend vite
mais
que...
Mais c'est compréhensible aussi.
Voilà, s'il y a quelque
quand
chose qui va
aider... avec un mur,
Elle comprend vite que ce qui va aider la cause, c'est pas ses idées, mais ses fesses. Et le mec, gros enculé qu'il est, va la prendre de force en lui disant, écoute, tu vas pas jouir dans ce que je vais te faire. Je vais juste te dégringuer comme la dernière des putes.
Et ça va être long.
Ouais, et ça va être long. Elle s'accomplit, comment on peut dire ça?
Elle se dit que voilà, si elle veut arriver à ses fins, il n'y a que le moyen là pour y parvenir.
Mais tu vois le truc venir.
Ouais, mais bien sûr, le mec
elle se sacrifie pour son peuple.
Retour chez les Spartiates. En fait, ils viennent de comprendre que Quasimodo les a trahis. Et du coup, qu'est-ce que ça nous donne?
Bah, ça veut dire que les Arcadiens qui étaient là, qui ont eu une scène de combat, ont décidé qu'il était temps de rentrer.
Bah, ils ont peur, oui, parce qu'en fait, Quasimodo, en fait, c'est quoi ce qu'il a balancé, Quasimodo, en fait?
Il a balancé, en fait, le chemin qui permet d'arriver sur l'arrière et de les prendre en tenaille, en fait.
Ce qui est éclaté au sol.
Non, techniquement, c'est un sacré avantage.
Non, mais attends, à un moment donné, ils connaissent un peu la map, ils savent d'où venir aussi.
Où est-ce qu'ils respawn?
Non, mais le problème, c'est un peu nul.
Le problème, c'est
vrai que sur Call of, en théorie, t'es bien placé. Ça suffit, quoi. Call of.
Ah, ok, d'accord.
Ton avantage, tu l'as que si les gens t'attaquent que d'un côté. S'ils t'attaquent des deux côtés, là, t'es mort.
Là, t'es mort.
Et là, c'est la merde parce que du coup, ça commence à créer un petit peu un vent de panique. Parce que là, t'as les gars qui sont rattachés à l'équipe de Léonidas qui commencent à dire Léonidas, nous, en fait, c'est chaud parce qu'on est en train de comprendre que c'est la merde et du coup on n'a pas envie de se suicider, donc on va quitter la team.
En fait, parmi les Grecs, il y a les Spartiates et il y a les mi-virils.
Ouais.
Et les mi-virils sont moins chauds à l'idée de mourir au combat. Et donc,
ils ont raison. Alors, les mi-virils, c'est ceux qui étaient potiers, étaient coiffeuses, stylistes.
Ceux qui
ne
crient pas à ou, en fait.
Voilà. Ceux qui, quand ils crient, font you you.
Putain, je sais pas faire le crâne.
Ceux qui, quand tu leur demandes c'est quoi leur métier, ils disent bah, je suis potier. Et
ouais, je bosse à la poste, hein, donc moi, voilà quoi.
Et donc ils se disent bah ouais, après retrouver mon lit et mon pays, ça m'intéresse.
C'est ça. Du coup, ça va mettre un petit coup de blues parce qu'ils commencent à dire bah écoute, nous Léo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se péter. Léonidas, il est pas bête parce qu'il voit bien que ça va jouer sur le moral des troupes et du coup, il décide de se lancer dans un petit discours afin de les remotiver et ça nous donne ça.
Écoutez-moi. Pas de retraite, pas de reddition, c'est cela, la loi de Sparte.
C'est pas vrai.
Et parce que nous respectons cette loi, nous allons tenir, nous battre.
J'adore ton slip.
Et mourir. Une nouvelle ère a commencé.
Ah là là.
Une ère où nous sommes libres.
Comme ton slip.
Et tous sauront.
Après, le
que 300 Spartiates ont rendu leur dernier soupir en la défendant.
Les beaufs. Et qu'est-ce qui se passe là, Charlie?
Eh bien, écoute, le capitaine, donc celui qui vient de perdre son fils d'une décapitation,
ouais.
Donc en général, c'est une maladie incurable.
Ouais, il n'y a pas de guérison possible.
Voilà, c'est mort.
Tu peux le recoller, mais ça fonctionnera
plus pareil. Et donc, il a hurlé un peu à la lune pour dire tout son malheur. Et donc là, il revient vers les troupes et il commence à parler de ses sentiments. Ce qui a tendance à gêner les autres Spartiates, d'ailleurs, qui baissent la tête en disant « Waouh, celui-là, on ne l'a pas assez brisé quand il était petit. » il commence à parler d'amour, de
ce genre de dire qu'il est déconstruit, qu'il est zèbre.
C'est abusé. Et donc, il casse un peu l'ambiance.
J'ai envie de fleurs. J'ai envie de couleurs.
Oh, il casse un peu le.
Parce que moi, je suis Capricorne.
Je suis un signe d'eau, et là, vous êtes trop signe de feu, donc je peux pas aller plus loin. Je me désolidarise.
Et donc, il parle de ses sentiments un peu, ce qui a tendance à casser un peu le mood des fameux 300 qui restent. Mais il leur dit, écoute, dans mon cœur, il n'y a plus que de la haine et de la rage. Et donc, ça, c'est une bonne façon de gérer son deuil. Donc, on va utiliser toute cette haine et cette rage. et l'a dirigé contre les Perses. Est-ce que
toi, tu as ton chef de guerre qui te dit je vais combattre uniquement en étant colérique et rageux, tu vas le suivre, tu te dis pas, il y a peut-être à un moment donné, il va avoir un petit problème
C'est le sous-chef. En même temps, ils viennent de voir que Leonidas, justement, leur a dit les gars, je fais tout ça juste pour la fame. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma place dans l'histoire. Vous allez tous mourir, mais on retiendra que mon nom.
Je vous dis direct, je veux une marque de chocolat. Voilà, moi, c'est Leonidas.
C'est exactement. Donc, vous allez tous crever.
C'est ça qui est marrant, parce que d'un point de vue historique, ça justifie parce que du coup, ils sont là pour se sacrifier pour ceux qui fuient. Oui. Là, en fait, ils se sacrifient pour rien, en fait. Sacrifie pour la fame de Leonidas.
Pour les followers, c'est tout.
C'est un petit peu dommage.
Tu n'as pas de followers.
Bah oui, exactement. T'as combien de followers, toi, Thomas?
J'ai combien de followers, toi?
J'en ai aucun.
Et donc là, en fait, t'as Leonidas qui commence à dire waouh, j'ai mon bras droit qui est en train de partir un petit peu en carafe. Bah, ceci dit, je trouve que la motivation de la colère et de la peine, quand tu pars en guerre.
La rage.
Bah, quand tu pars en guerre, c'est quand même trois trucs à avoir.
Oui, bah, c'est surtout quand tu vas mourir, en fait.
Oui, aussi.
Ouais, parce que c'est plus ou moins ce qu'il leur dit. Hein. Les gars, c'est le moment où on va tous mourir. Donc,
Et du coup, ça sent parce que le lendemain, en fait, toute la team de Leonidas, bah, ils savent qu'ils vont sûrement faire leur dernier combat.
Bah, en fait, ils chargent celui qui n'a qu'un œil.
Ouais.
Donc, la voix off qu'on entend depuis le début du film, d'aller raconter son histoire au conseil, d'aller plus ou moins défendre sa cause.
Rien que ça, c'est un aveu de Leonidas de dire bon, je pense que je reviendrai pas.
Oui, non, là,
il faut
clair.
Quelqu'un compte l'histoire.
Là, on sent qu'ils vont plier les Gaules et que, qu'il a besoin de, d'une bonne parole. Quoi.
Ouais.
Textuellement, tu as une belle verve. Donc va raconter mon histoire.
À défaut d'une belle verge,
exactement,
qui n'a strictement rien à voir. Tu vois, parce qu'avec une bite, tu peux pas raconter une histoire. Mais ceci dit, tu peux en créer.
Allez.
Et donc, qu'est-ce qui se passe après, Thomas?
C'est le moment de petite gloire de Cersei qui doit parler au conseil.
Ouais, exactement.
Et dans un premier temps, elle essaie la diplomatie. Elle va expliquer pourquoi.
Parce que,
en fait,
attends,
tout
elle
doit
parle
les
au conseil parce que Théron, il lui a dit écoute, si je te baise, moi je vais appuyer ton.
Je t'accorde le droit de venir déjà et en plus je vais appuyer ton discours.
Je pense qu'on peut parler de viol quand même à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
Du coup, Cersei, quand elle commence à parler au conseil, elle se dit je me suis pas fait violer pour rien, a priori. Ce que je vais dire, ça va tomber dans les bonnes oreilles.
Et c'est marrant, du coup, elle a les bons arguments. Mais à ce moment-là, Théron se rappelle en fait qu'il a été payé par les Perses et qu'il l'encule.
Attends, ça pour l'instant, on ne le sait pas.
Oui, enfin, si, on l'a vu. On l'a vu quand on l'a vu, il était avec les efforts. Hein, donc on l'a vu au tout début du film.
Oui, tu le vois assez rapidement dans le film.
Okay. On voit que c'est un traître en fait. Donc clairement, elle lui dit non, t'es une pute en fait. Techniquement, je t'ai niqué hier.
Oui, alors,
c'est gratos en fait. Mais bon,
ça n'a aucun sens.
Ça n'a pas de sens.
Ouais, parce que le mec n'apporte aucune preuve.
Ah non, de toute manière, l'histoire avec Cersei n'apporte absolument rien.
Ça n'apporte rien. C'est une fausse intrigue juste pour t'expliquer pourquoi Leonidas n'est parti qu'avec 300 hommes. C'est juste ça en fait.
En tout cas, surtout pourquoi il n'a pas été rejoint.
Alors, c'est un peu ridicule, mais du coup, c'est juste pour justifier ça.
Ouais.
Du coup, il dit que c'est une pute et qu'il l'a baisé hier.
Et tout le monde le croit. Il n'y a pas de preuves.
C'est clair.
Oui,
en même temps, il dit ça. T'as la reine qui lui crache dessus, qui veut se battre. Tu te dis.
Oui, puis je sais pas si t'as vu le public, mais c'est quand
même. En même temps, vu ce qu'il dit, ça me semble normal qu'elle veuille se battre.
Oui, mais même, tu vois, sachant qu'au tout début, tu as raison aussi, Charlie, clairement, le public est clairement patriarcal. Au début, quand elle arrive, elle fait attends, une femme là? Et là, du coup, ce qui me fait marrer, c'est que du coup, t'étais dans un Sénat où, au moment, ils ont tous été fouillés, ils ont pas d'armes. Là, il y a un mec qui traîne, il a un glaive. Bon, du coup, Cersei, elle décide de buter.
C'est un agent de sécu.
Oui. Ah, peut-être que c'est une matraque, en fait, on sait pas, en fait.
Non, c'est un agent de sécu.
C'est parce qu'à l'époque, les agents de sécu, ils étaient pas renois. Ils avaient pas
un rapport, au fait, la graisse, tout ça.
Du coup, elle plante Théron. Ça, ce qui est bien fait, quand même, c'est que le mec, quand tu le plantes, tu le plantes au bon endroit.
Il saigne
de l'or.
Des pièces d'or.
Pièces d'or perse en plus.
Ouais.
Franchement, c'est bien fait. Et du coup, là, tout le monde se dit mais putain, c'est un traître. Et du coup, voilà, retournement de situation, c'est un traître. Vas-y, on est d'accord pour la reine, vas-y, on envoie l'armée. Ouais. Voilà, conclusion.
Et là, le moment final.
Retour avec la team de Leonidas. Qu'est-ce qui se passe, Badis?
Le pion de Xerxès arrive et lui dit t'as qu'une seule solution.
Oui,
en fait, c'est
il lui a fait encore une proposition. Quoi.
Exactement, il ose. Tu t'agenouilles et tu dis que c'est le vrai dieu, que c'est le vrai roi. Et du coup, tu t'agenouilles devant lui et tu lui portes, je sais pas comment on dit.
Allégeance,
ouais, exactement.
Et là, c'est fort parce que pour le coup, tu vois, Leonidas. Qui commence à dire bon tu vois qu'il réfléchit tu dis merde qu'est-ce qui se passe
vu suffisamment de Kansas City Shuffle dans ma vie pour savoir que
mec t'as une mauvaise table de poker là il réfléchit il a deux paires d'as
pas ça mais comme disait Basis en plus de ça je trouve que le gars en plus le pion de Xerxès il commence à lui donner des nouveaux éléments en disant écoute finalement Sparte on n'y touche pas
ce qui n'a aucun sens
tes gars on n'y touche pas
ça n'a aucun sens ils sont beaucoup plus que tu es les ils passent à autre chose quoi
bah oui
et en fait il lui propose des trucs de ouf on les écoute ton équipe on n'y touche pas, la Perse on n'y touche pas, et tu vois Leonidas qui commence à retirer son casque, tu dis
qu'est-ce qui se passe, Léo, qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Il le pose par terre.
Merde. Ouais, il enlève son bouclier.
Il pose son bouclier. Tu dis, ah, Léo, qu'est-ce que t'es en train de... Est-ce que tu nous ferais pas...
C'est vrai que t'as envie de dire, mais tout ça pour ça, en fait.
Ouais. Il pose sa lance. Tu dis, Léo, il se met à genoux. Tu dis, bah, 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 qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à pousser un cri. Et vlatipa que Michael Fassbender sort de derrière lui, cavale, prend appui sur son dos.
De derrière les fagottes.
De derrière les fagottes.
Et du coup, Michael Fassbender tue juste le gars en fait, qui proposait le deal qu'avait mis en place Xerxes. Et ça permet, du coup, en diversion à Léonidas de récupérer sa lance, de l'envoyer et de faire un move qui sert absolument à rien.
Alors, si. Ça a une importance.
Juste avant, je trouve qu'au moment où Léonidas commence à lancer la lance, il y a un plan qui est magnifique en slow motion où tu vois cette lance qui est en reflet dans les escaliers qui arrive au ralenti. Et c'est con parce que putain, Léonidas, en vrai, c'est stylé ce qu'il fait, mais il a mal visé. Parce qu'en fait, après, il arrache la joue de Xerxes.
Il arrache des piercings en fait.
Non, non, justement, tout s'explique à ce moment-là. Écoutez bien, un leader mort se remplace alors qu'un leader affaibli perd des batailles. Et ça, j'ai surkiffé.
Je suis désolé, tu butes le mec qui est le roi en fait,
non,
de
justement.
Plusieurs
trucs. Non,
je crois
qui est le dieu. Ouais. Qui est le dieu.
Qui est le dieu, tout est fait exprès. Je crois que tu crées plus de traumatisme que juste les fleurets, en fait.
Non, tout est fait exprès, c'est-à-dire qu'un dieu, donc lui, pourrait se remplacer par un autre leader et du coup, ça reviendra au même. C'est-à-dire que la bataille reviendrait au même. C'est-à-dire qu'il tuerait les Spartiates et du coup, ça reviendrait au même. Alors que là, justement, il l'affaiblit pour prouver que du coup, Xerxes est faible et est mortel. Et du coup, à ce moment-là, tout se remet en question de l'autre côté, et de l'autre côté, ils deviennent plus puissants pour pouvoir gagner les batailles.
Moi, j'aurais été plus impacté par le fait qu'il le bute.
Non, moi, j'ai kiffé l'histoire-là.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la lance va lui arracher la moitié de la joue, et là, stupéfaction, tout le monde voit qu'en fait, un dieu peut saigner.
Oui, effectivement.
Et il le cache avec sa main.
Ouais, enfin bon, tout le monde en dit
aïe,
tout le monde dit ouh.
Bah alors Xerxes,
t'as le nez qui coule.
Et puis tout le monde,
non, c'est mon make-up.
Tout le monde d'avoir les piercings au sol aussi d'une certaine manière. Donc à moins qu'il les ait arrachés tout seul.
Et là par contre la suite est sans issue, c'est-à-dire que toute l'équipe de Léonidas va se faire éclater de façon pour le coup assez héroïque.
Par quoi? Par des flèches.
Oui, bah,
du coup, c'est ce que j'ai dit au début. S'ils avaient fait que les balancer de flèches H24, ils les auraient butés.
Non mais je pense qu'au début ils les ont peut-être sous-estimés. Et je trouve que après on va arriver à une scène qui, même maintenant, pour moi, je la trouve assez forte. C'est que toute l'équipe de Léonidas se fait éclater, dont notamment son bras droit qui va se faire empaler par une lance et qui va tendance à continuer à charcuter des types alors qu'il est empalé. Mais surtout, il y a un truc que j'ai trouvé ouf, c'est que Léonidas se fait exploser par des flèches et finalement, dans un dernier élan, il commence à se relever. Il pense à sa femme. Il dit « Ma reine, ma femme, mon amour ». Et finalement, bon, après, il meurt. Et j'ai trouvé ça, cette scène, j'ai trouvé vachement forte.
Oui. Oui,
non, mais j'ai l'impression que Thomas n'a pas de cœur.
Non, je te cache pas que vraiment au-dessus d'1h15 du film, je trouve que le film est trop long et qu'il doit être rushé vraiment pour finir en fait.
C'est peut-être un petit peu longuet quand même.
Il dure 2 heures, franchement, avec tous les ralentis. Franchement, ça, je pense que c'est un film parfait.
Ou quasiment
en 1h35. Mais 2 heures, c'est trop long.
Toute la scène finale, le mec nous refait Gladiator avec des mains dans les champs de blé, de la musique et tout.
C'est trop long, ça raconte rien.
Cersei, elle l'attend un petit peu dans un champ de blé. Et là, elle voit un mec à qui il lui manque un œil qui arrive. Elle se dit tiens, c'est pas Léonidas ça. Donc je crois que ça pue la mort.
Il a mon collier. Donc déjà, c'est bon. Bonne
après, ce que je comprends pas, c'est qu'en théorie, quand même, Léonidas a dit les Spartiates ne se rendent pas.
Ils ne sont pas rendus.
Et surtout, ne repartent jamais en arrière. Qu'est-ce que tu fous là? Moi, j'aurais tendance
à
dire.
Ah non, il est là pour conter l'histoire.
C'est un ordre direct de son roi.
C'est
ça va.
Un peu facile quand
même. C'est pas un déserteur non plus. Non, mais c'est pas un mec en grenouillère qui va commencer à faire le.
C'est clair. N'oublie pas que toi, t'es le 300 plus l'autre, d'accord?
Une grenouillère imaginaire.
Donc là, Cersei, elle comprend que finalement, Léonidas est mort. Alors, ce qui est peut-être pas plus mal, parce qu'elle aura pas à lui dire qu'elle l'a fait cocu pendant qu'il était parti à la guerre.
Qu'elle s'est fait violer, je pense. C'est un peu traumatisant. Du coup, le Borgne va parler au conseil. Et derrière, il enchaîne sur un discours bien long qui parle d'héroïsme, etc. Et tu te rends compte qu'on part en ellipse. Et là, on se rend compte du coup que ça part sur une autre bataille. Et là, en fait, il te dit qu'il parle plus à 300 Grecs, enfin à 300 Spartiates, mais il parle à 10 000 Spartiates. Et c'est une autre bataille, c'est la bataille de Platée.
Oui, parce que
charge et fin du film.
Le discours qu'il y a eu au conseil a réussi à motiver le conseil pour dire bah, écoute,
on
envoie l'armée.
Bah, oui, d'autant qu'ils savent que le fameux émissaire, enfin l'espèce d'ambassadeur, Théron, c'était un traître.
Une salope.
Ils n'ont pas hésité à envoyer l'armée, donc effectivement, ça facilite les choses.
Tout à fait. Et c'est ainsi que se termine ce merveilleux film. Alors, on va faire un petit tour de table. Combien de chocolat on lui donne? Badis.
J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je voyais. C'est épique.
si je puis dire.
Mais tu puis dire, tu puis dire.
Je lui donnerai 3,5.
Ok.
Ça, c'est une belle note. Hein. Et bah, moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est un film qui est trop long. Moi, j'avais le souvenir en fait que j'aimais pas ce film. Et quand je l'ai revu, j'ai vraiment kiffé. Les plans, la musique, les punchlines sont vraiment impactants. Parce que même encore maintenant, en dehors du film, quand quelqu'un te sort une punchline, tu sais de quoi ça parle en fait. Donc, c'est clair, donc ça te parle. Mais vraiment, au-dessus d'une heure 15, dès qu'en fait on a la partie où ils commencent à mettre des rhinocéros, des éléphants, etc., t'as envie que ça s'arrête
la,
en fait.
La biquette à chicha, t'as pas aimé.
À partir de tout ce moment-là, t'as envie que ça s'arrête.
Il n'y a pas de chicha, mais qu'elle joue un instrument de musique.
Ouais, mais moi j'aime bien.
D'accord, ce qu'il y a la chicha, c'est marqué.
La biquette à chicha est quand même incroyable.
Du coup, pour moi, il y a franchement un tiers.
On est d'accord, sorti nulle part, parce que c'est le seul animal qu'ils essayent de prendre humain.
En plus, tu le revois pas par la suite alors que c'est un truc.
Mec, il aurait dû faire un spin-off sur la biquette.
Ah, mais honnêtement, elle apparaît en gros plan en main. Ça,
hein. C'est pour te faire un petit peu genre, c'est les enfers, tu vois. Enfin bref.
Non, mais moi, je voulais 20 minutes juste sur elle. Hein.
Ah, grave. Excuse-moi, Tom, je t'ai coupé.
Non, t'inquiète. Bah, c'est juste, clairement, pour moi, il y a un tiers du film qui est trop long en fait. Le film, c'est pas conclure. Du coup, je sais pas. Moi, il mérite 3 chocolats. Ça reste un bon film quand même.
C'est pas mal.
Bah écoute, moi j'ai donné la note de 2,5. Voilà, middle.
Oh, parce c'est
que,
dur.
Ouais, mais autant je trouve que visuellement c'est marquant, autant j'ai l'impression de voir des catcheurs jouer de la tragédie grecque et je te jure, j'arrive pas à m'enlever cette image. Des mecs bodybuildés qui. Enfin, tu vois, tu vois du catch quoi, en fait, tu vois, qui essayent de jouer de la comédie. Et voilà.
Il manquait un ring.
Ah ouais, j'avoue que sur la forme, c'est spectaculaire. Sur le fond, je suis moins convaincu quand même par le message du film et tout ce qui l'a entouré. Et donc, ouais, vraiment moitié-moitié.
D'accord. Bah, c'est vrai que je me dis, franchement, hein, si jamais il devait faire un remake de ce film, tu claques The Rock et John Cena, ça passe.
Exactement ça.
Ça passe un peu à Thomas, après. Raconte-nous.
Ce film, il m'a cueilli. Pour être honnête, hein, je pense que je vais lui mettre ouais, un 3,5 aussi. Parce que visuellement, le film a 15 ans et je trouve qu'il a une patte. Il est quand même assez dingue. Il y a des plans qui fonctionnent de ouf. L'histoire passe. J'ai rien de négatif à dire sur ce film. Et putain, Gérard Butler, c'est vraiment son prime. Là, il est vraiment à son apogée.
Ah non, là, je suis d'accord.
Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, c'était le cas. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Salut.
C'est vraiment trop débile, votre truc.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Et surtout, n'oubliez pas.
Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Je veux rentrer chez moi.